Nous sommes mercredi 29 avril 2020, vous êtes toujours confinés avec ces putains de mômes et c'est le Dojo Bar. Bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut, fier représentant des célibataires endurcis, j'ai pas de gamin.
Pareil pour le coup.
Pareil.
Bon, non, vous êtes fier, vous avez pas de couilles, c'est tout. Ah. Et vous le démontrez puisque vous n'avez pas de gamin. C'est quand même à ça que ça sert. Entre toutes ces conneries, on est bien.
Et pas non plus de burn-out, mais ça c'est un autre détail.
Oui, mais ça va pas tarder ça. Attends la 8 ou 9e semaine, paraît que c'est là où ça commence à devenir dur. Bref, vous êtes toujours confinés, mais c'est quand même le Dojo Bar, le seul bar de France qui est ouvert. Hein. Alors de France et de Navarre, ça me fait plaisir, je sais pas où est Navarre, mais voilà.
Chez Méduse, non?
C'est bien possible.
C'est-à-dire que la Belgique, ce sera un peu la France?
Alors je rappelle que le Morbihan a de nouveau autorisé la vente d'alcool fort, on nous signale donc que le coronavirus est en chute libre là-bas.
Ouais, c'est pareil, en Normandie, il n'y a pas trop de cas grâce au Calva.
Voilà, c'est bon, c'est parfait.
Alors, la Navarre, c'est en Espagne.
Mon Dieu, mais pourquoi de Navarre, alors?
Parce que ça ressemble pas mal à un truc qui... Ah, ça ressemble à un petit bout de Pays Basque, hein.
Ah, c'est possible que ce soit ça. Bref, ce Dojo Bar va être placé sous le signe de Mana, alors ça va être le bordel, hein. Je préfère prévenir tout de suite. Donc, ça va être le gros bordel.
Lost in Translation.
Voilà, il y a beaucoup de Lost in Translation, et puis il y a beaucoup de... Ah oui, on va essayer de rattraper le truc au Japon avec le... Alors du coup, c'est la merde.
En termes de titre et de suivi global de la franchise, c'est comme Kingdom Hearts. Officiellement, il y a
Kingdom
que 4... comme Kingdom Hearts. Officiellement, il n'y a que 4 épisodes, mais dans les faits, il y en a plutôt le double.
Oui, et puis même, c'est un peu comme... C'est quoi, c'est Mickey Mouse? Non, c'est Crazy Castle, Bugs Bunny Crazy Castle. Où, alors t'as Crazy Castle avec Bugs Bunny, mais au Japon c'est avec Mickey, et en Europe c'est avec encore autre chose, puis après il y a Woody Woodpecker, enfin bref, c'est un merdier absolument innommable.
Non, là pour coup c'est un peu plus simple quand même, hein.
On en reparlera. On en reparlera.
À part le Kamikaze Quest.
Mais voilà, on va commencer tout de suite avec les restes du monde, où il se passe pas grand chose parce que tout le monde est confiné depuis un petit moment, donc faut quand même reconnaître que c'est un peu compliqué. Je vais commencer par Zergy qui nous a informé de manière extrêmement généreuse qu'il y avait un patch de traduction française, oui madame, française, bien de chez nous, pour Baton Kaitos Origins, la suite de Baton Kaitos qui n'est jamais sortie en Europe.
Et qui est en fait la préquelle.
Et qui est en fait pas la suite.
La suite qui se passe avant.
C'est le numéro 2 au Japon, mais qui est originellement... On va arrêter avec le titre.
Voilà, mais d'où le nom Origins, c'est une préquelle. Mais du coup, Zergy, tu as pu tester ce magnifique patch ou pas?
Alors, le patch est sorti il y a 2-3 semaines, j'ai complètement oublié d'en parler au dernier Dojo Bar. Comme j'ai le jeu, j'ai pu le dumper, j'ai patché les ISO et ça marche très bien. Et du coup, vous ai filé un lien pour télécharger les ISO déjà patchés.
Et que, oui. que je vais m'empresser de faire.
Après 22h, parce que le serveur il est dans mon salon, vous allez me niquer, je vais laguer sinon.
Je connais ce problème.
Effectivement, j'avais pas vu qu'il y avait. Et en plus, en plus pour le jeu lui-même, c'est un super RPG qui, je trouve, est bien meilleur que l'original. Enfin, vraiment surpasse l'épisode 1 sur quasiment tous les plans à part la musique.
C'est le 1 raffiné.
Ouais, c'est mieux rythmé, avec des combats beaucoup plus rapides et beaucoup plus dynamiques. Une histoire, à mon sens, plus intéressante et surtout un meilleur doublage. Parce que le doublage anglais du 1 était quand même bien à chier.
On pouvait pas le mettre en japonais sur les versions européennes? Non, je suis pas sûr, Marc.
Non, c'était le doublage anglais et c'était un peu catastrophique.
C'est quand même bien maintenant qu'on puisse avoir les doublages japonais quand on veut et éventuellement même pouvoir choisir, pouvoir télécharger les doublages qu'on veut, c'est quand même...
Pour le coup, Baton Kaitos Origins, ils ont fait appel à des comédiens de doublage de tout ce qui est cartoon aux États-Unis pour doubler les personnages du jeu du second Baton Kaitos, et en vrai ça se ressent super bien, les punchlines un peu rigolotes passent super bien, les personnages sont plutôt bien joués dans l'ensemble. Et je l'avais refait le jeu il y a 4-5 ans maintenant, et bon, à part la mise en scène qui est nulle à chier parce que c'est en précalculé et d'époque, j'ai pris à peu près le même pied que la première fois, voire mieux, parce que je comprenais mieux ce qui se passait en fait.
Ah, donc ça a quand même l'air d'être cool, et moi le coup du patch, alors ça me dérangerait pas du tout de faire le jeu en français, mais je serais quand même très curieux de voir le patch de traduction parce que La VF du premier était quand même pas trop mal, au sens parlé, mais au sens écrit. Hein. J'irais bien jeter un petit coup d'œil, pour de vrai.
Alors, les ISO, ça reste du NTSC, donc il faut que votre GameCube l'accepte, enfin, ou Dolphins, de toute façon, hein, OSEF.
Voilà.
Et sinon, il y a des gens qui avaient dit, s'il vous plaît, Monolith, ça serait bien d'avoir Batten Keto Sagier, et puis Monolith a dit, bah oui, mais bon, la licence, elle est aussi un peu à Bandai.
Ah, merde.
Ouais, d'ailleurs, il n'y a que Batten Keto Origin qui a été financé par Nintendo, c'est pour ça qu'il y a, je crois, dans Smash Bros, t'as au moins une musique de Batman Ketos Origin et peut-être un ou deux artworks, je crois, dans le jeu. Mais jamais du premier, parce que le premier appartient intégralement à Namco Bandai. Et que Monolith n'est pas le seul développeur du jeu, d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a Trick Crescendo qui a bossé dessus. Pour la partie combat, d'ailleurs.
On sait pourquoi il n'est jamais sorti en France ? C'est juste un bordel juridique ou
Sorti en 2006 c'est sur tard, GameCube ouais.
Puis ouais, le temps de le traduire pour l'Europe. Hein.
Je l'ai acheté en 2007 pour mes 23 ans, quoi. Donc la GameCube, elle était déjà morte depuis 3 ans.
Ok. Ah ouais, c'est aussi simple que ça.
C'était vraiment, ouais.
Faut que t'imagines que jusqu'en. Mais enfin, même aujourd'hui encore, c'est le cas, mais c'est moins vrai parce que c'est pris dès le début du développement. Mais enfin, jusqu'à la fin de l'ère GameCube, un RPG qui devait sortir en Europe, faut le traduire dans au moins 4 langues si tu veux que ça marche.
Oh, oui, ça,
5
ça
langues
un
si
an,
tu veux que ça
an,
marche
un minimum. Après, ouais.
Voilà, aujourd'hui c'est pris en compte dès le début du développement. Mmh. Tu regardes chez Ubisoft par exemple, la méthode elle est très simple. Hein. Le scénario, à partir du moment où le scénario et les dialogues sont écrits, ils sont traduits immédiatement. Pour justement éviter d'avoir ce truc-là.
Même chez Nintendo maintenant, un truc comme Fire Emblem, qui d'habitude mettait entre 6 mois et 1 an à sortir en Europe après la sortie japonaise, là, Treehouse, c'était en même temps.
Ah, complètement, non mais.
Et d'ailleurs, ça s'est senti. Hein.
Sortie mondiale simultanée, aujourd'hui, c'est quasi obligatoire. Et en fait, tu réduis considérablement le. Enfin, t'as pas de coût de traduction si tu l'inclus dans le coût directement et que tu te dis, bah, on va le faire dès le départ, et puis voilà.
Ah, t'as pas besoin de remettre l'équipe au boulot
C'est ça, t'as besoin de remettre tout un tas de rouages au boulot, tu le fais finalement en mode. En râteau, en fait, tu fais un grand râteau où tu dis, bah, ok, on va faire italien, allemand, espagnol, anglais, français. Et en plus, comme c'est. Il y a aussi un autre truc, hein, c'est que pendant très longtemps, en Amérique latine, les jeux vidéo étaient assimilés aux jeux d'argent, d'un point de vue légal, et donc c'est notamment le cas au Brésil, mais c'est le cas aussi en Argentine, c'était le cas pas au Mexique, de mémoire c'était le cas en Colombie, en Argentine et au Brésil. Donc dans tous ces pays-là, tu n'avais pas de... Enfin, les jeux vidéo étaient extrêmement taxés, parce qu'ils étaient effectivement associés aux jeux d'argent. La loi s'est beaucoup assouplie au cours des années 2000, et ça fait que ces marchés-là se sont énormément ouverts, parce que t'as une classe moyenne en Argentine, au Brésil, au Mexique, qui est quand même, commence à avoir un petit peu de pognon, c'est pas foufou, mais il commence quand même à avoir une certaine appétence pour ça, et là-bas, si ton jeu il est pas traduit en portugais ou en espagnol, bah, tu le vends pas, hein. Personne ne parle anglais, quasiment personne ne parle anglais.
Bah, c'est un peu comme en France, hein.
C'est un petit peu comme en France.
En France, enfin, les gens se plaignent quand les jeux sont pas traduits, alors moi c'est à raison, hein. Quand un jeu est pas traduit en français, je trouve ça toujours dommage. Bon, c'est des jeux avec beaucoup de texte,
Il y a des jeux, en fait, quand tu regardes la gueule de la traduction, tu te dis que finalement, ils auraient peut-être mieux fait de s'abstenir.
Oui, mais tu vois, tous les Ace Attorney après le 4 qui sont tous sortis en anglais, ben, moi je sais que même si j'ai bien aimé y jouer, c'était pas le même charme que quand c'était en français, tu vois.
Ouais. Non, tu loupes tous les jeux de mots, par exemple.
Bah, surtout, ouais, c'est ça, surtout une série comme Ace Attorney où en fait le charme c'est plus l'humour et, que la qualité de l'histoire, même si elle est présente. Mm. Et c'est un peu ce qui fait passer la pilule de joli des montagnes de texte pendant des heures. C'est vrai qu'en anglais, ça rend le truc un peu moins agréable.
C'est moins lisible, on va dire. Bref. La suite, c'est qu'on a eu, de premiers chiffres de vente de Animal Crossing, New Horizons.
Enfin, en dehors des japonais.
Voilà, alors c'est un prime des clochettes, mais genre violent, quoi. Genre hyper violent, ça, je veux dire...
Quand on avait voulu faire le Twitch, je crois qu'il y avait une demande d'avoir une image de Tom Nook avec des clochettes. On a ressorti le Tom Nook dans sa baignoire de billets de Pocket Camp.
C'est exactement ça, quoi. C'est la folie. Les chiffres de vente physiques, même dans les pays confinés, sont délirants. Genre délirants. Et on n'a pas encore de chiffres du dématérialisé. Il y a eu une estimation qui a été faite par je sais plus quel institut à la con qui estimait que juste au Japon, c'était plus de 1,2 million d'exemplaires des maths, sachant qu'ils ont déjà genre 1,3 million d'exemplaires. Enfin, en gros, il y a un Animal Crossing New Horizon par Switch, à peu près. Hein. Au Japon, oui, en gros, c'est du 1 pour 1 ou quasiment.
Il y a 12 millions de Switch au Japon.
Bon, bah, donc c'est presque ça.
Mais c'est énorme, 12 millions, c'est plus que la PS4, genre à 3 millions.
Non, presque. Mais c'est juste... Je crois que ça va être... Ça va peut-être pas être le jeu de l'année en termes critiques, mais en termes de vente, j'imagine difficilement que n'importe quel autre jeu arrive à le dépasser.
En même temps, il arrive en plein confinement, et c'est le jeu qui te permet de sortir par... Ça permet un peu de compenser.
C'est faux, c'est pas vrai, Nintendo a retardé sa sortie, lâché le coronavirus aux alentours du mois d'octobre, en piégeant un pangolin en Chine.
Ils ont envoyé leur ninja.
C'est ça, ils ont envoyé les Pikmin, ils ont envoyé des Pikmin poison sur un pangolin qui a été mangé par un humain, et boum, coronavirus, et vente énorme, voilà.
Mais en plus, outre le fait que c'est un jeu qui est parfait pour le confinement, et que je pense que ça attirait pas mal le monde, c'est aussi un... très très accessible et extrêmement grand public, parce que finalement il n'y a pas besoin d'avoir un skill de fou pour avancer dans le jeu, et ça a des préoccupations qui sont pas tabasser des mecs jusqu'à ce que tu vois le générique de fin, quoi.
Oui, c'est le jeu, tu peux y faire une demi-heure par jour et voilà.
Ouais, ça, le but c'est de payer ton prêt et rembourser ta maison et la décorer, tu vois.
Comme dans la vraie vie, en fait.
Exactement.
Sauf que là, les magasins de bricolage sont ouverts, ce qui simplifie un petit peu.
Bah, c'est toi qui fais le bricolage, donc du coup, c'est encore mieux.
C'est parfait. C'est parfait. Ma femme vient de me glisser à l'oreille que la prochaine étape, c'est un DLC pour la maison du style où on t'apprend à faire un masque.
imagine un event Covid-19 dans Animal Crossing.
Putain. Mais déjà, l'accessoire masque chirurgical était un des plus populaires au début du.
Avec le motif gilet jaune.
C'est ça, oui. Bref, Super Mario Maker 2.
Ah, la fameuse update.
C'est la dernière update, surtout. Alors, la seule mauvaise nouvelle, c'est que c'est la dernière update. La bonne nouvelle, c'est que c'est quand même cool, parce que ça te permet de faire ton propre petit Super Mario, ton propre monde, en fait, de Super Mario World, ta propre petite world map, et de relier, donc, plusieurs niveaux entre eux. Donc, au lieu de faire des niveaux, finalement... entre guillemets un petit peu décousu, tu peux aussi faire des niveaux qui reprennent une idée, la modifient légèrement, et en fait faire ton propre petit Mario. Et ça, je trouve que c'est très très cool. Alors ça reste assez limité. La carte elle-même, je crois qu'elle a une taille max qui est pas énorme, elle a un nombre de points max qui doit être 6, 7, 8, je me souviens plus exactement.
Et je crois que c'est qu'un seul monde par personne aussi.
Ah, c'est possible ça. Mais du coup, ça te permet de dire, moi je trouve ça rigolo parce que tu peux vraiment... créer ta propre petite map en te disant bah ok, je prends le monde ABC dans lequel j'ai exploité l'idée de les boules de pique qui font ci, qui font mi, et puis bah tu peux vraiment faire une petite progression plutôt que de faire un niveau hardcore et tout ça. C'est beaucoup moins décousu, ça permet de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Alors, c'est pas foufou non plus, hein, c'est pas l'update du siècle. La mauvaise nouvelle étant que c'est effectivement la dernière update de Super Mario Maker 2.
Après, ils l'ont blindé parce qu'en plus de ce mode monde, ils ont rajouté, je crois, plein de power-up dont la. Le costume de grenouille de mémoire.
Tout à fait, le costume de grenouille, il y a...
Le champi de Mario 2.
Oui.
Je pense qu'il fait...
Tu peux jouer comme dans Mario 2.
En gros, quand tu sautes sur un ennemi, tu ne l'écrases pas.
Tu peux le porter dessus. D'accord.
Voilà.
Donc après, l'épée de Link qui permet de jouer à Zelda 2, tu as donc le champignon qui permet de jouer à Mario 2.
C'est ça.
C'est presque dommage qu'il n'y ait pas le style Mario 2. Non, je déconne, Mario 2, c'est de la merde.
Ah, c'est... moi, je suis surpris qu'ils ne l'aient pas proposé intégralement, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, et du coup, c'est pour ça que c'était le champignon qui a été intégré à la fin.
Voilà, et on va finir par une mauvaise nouvelle pour Nintendo, mais heureusement, on vous a expliqué déjà comment s'en prémunir. Il y a eu donc un gros piratage de compte chez Nintendo qui est venu des NNID, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est le truc qu'on utilisait sur Wii U.
Ouais, c'est comme ça que je me connecte au mien.
Ah, c'est con, hein.
Ah, mais j'avais déjà mis la double authentification le jour où je me suis fait voler ma Switch.
Oui, effectivement.
Ouais, et de toute façon, la carte bleue n'est pas enregistrée sur mon compte.
En plus, oui, il vaut mieux. De toute façon, n'enregistrez jamais votre carte bleue nulle part. Hein.
Oui, si vous pouvez éviter, c'est ce qu'il y a de mieux.
Et puis, double authentification, c'est quand même mieux quand... Enfin, au moins pour les trucs un peu essentiels, genre effectivement les PayPal, la banque, les choses comme ça. Quand il y a du fric en jeu ou quand il y a des informations personnelles qui peuvent être très problématiques, parce que ça peut arriver aussi, d'avoir des services sur lesquels vous avez beaucoup d'informations personnelles, typiquement juste votre adresse postale, ça vaut peut-être le coup de mettre une double authentification, parce qu'il y a des gens, ils se sont fait voler leur adresse postale, et puis ensuite, il y avait une jolie carte de toutes les maisons qu'on pouvait cambrioler, avec tout ce qu'ils avaient acheté ces 6 derniers mois. Voilà, c'est arrivé, près de chez vous. Et donc, voilà, y a 160 000 comptes Nintendo Network ID qui ont été piratés, visiblement. Alors, je ne sais pas si c'est parce que l'hypothèse la plus probable, celle qu'on a entendue, c'est que le mot de passe en fait qui était utilisé pour les comptes NNID, c'est le mot de passe qui était utilisé pour déverrouiller ta Wii U sur ton gamepad. Et donc, à part les gens qui retenaient le mot de passe et qui pouvaient se permettre d'en mettre un très compliqué, les gens qui voulaient juste protéger leur compte par un mot de passe mettaient en général un mot de passe assez simple, du coup, puisqu'il fallait le taper à chaque fois qu'on allumait la console. Donc c'est con, mais a priori, le hack, il est parti de là, de gens qui avaient un mot de passe plutôt faible sur leur NNID, parce qu'il ne servait pas qu'à se connecter sur l'eShop, il servait aussi à se connecter sur sa Wii U. Bref, donc ça a été désactivé par Nintendo, ce qui est bien, c'est que le risque est maintenant beaucoup plus limité. Ça n'empêche pas que Nintendo a conseillé à tout le monde d'activer le double facteur, parce que ça coûte pas grand-chose, en fait. Faut juste être très prudent, on vous a fait un petit guide sur le dojo qui vous permet d'activer ça de la manière la plus simple, rapide, exhaustive possible.
Oui, ça se fait vite, et puis changez votre mot de passe au passage. Hein.
Voilà, ça coûte pas grand-chose, et installez-vous un petit gestionnaire de mot de passe comme KeePass, par exemple. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. C'est très facile d'aller mettre le fichier sur un Xcloud d'un copain, un Google Drive, une synchronisation de fichiers quelconque. Voilà, c'est pas très très compliqué à faire.
Tiens, j'ai un petit tips pour faire un mot de passe vachement plus compliqué à trouver en bout de force.
Méfie-toi parce que je connais un responsable de la sécurité des systèmes d'information qui nous écoute.
Ok, ouais,
c'est sérieux.
Et puis alors, développer des tips pour faire des bons mots de passe, c'est un coup justement que les gens trouvent c'est quoi les mots de
passe.
Non,
mais c'est très con. C'est genre, mettons que ton mot de passe est password, en brute force tu le trouveras assez rapidement. Si tu mets un espace entre chaque caractère, c'est un peu plus long.
Oui, alors c'est pas forcément. Alors, oui, il y a juste un tout petit problème avec ça, c'est que ça reste quand même.
Ça reste. C'est pas la panacée.
Ça reste essayable.
Et puis encore une fois, à partir du moment où on connaît le truc.
Non mais voilà, et moi ce que je vous conseille de faire, si vous avez absolument besoin de retenir un mot de passe, donc le gestionnaire de mot de passe c'est quand même un peu la base, parce que l'avantage c'est que ça fait des mots de passe totalement imbitables de 42 caractères et vous en foutez parce que vous n'avez pas à le retenir finalement, c'est le gestionnaire de mot de passe qui le retient, donc évidemment ça veut dire que faut pas perdre le mot de passe de son gestionnaire de mot de passe, donc celui-là il faut le retenir par contre.
C'est important.
Mais ça n'en fait plus qu'un, donc c'est déjà pas mal. Ça n'en fait plus qu'un à retenir. Un des conseils qui était donné, même par les grands experts de la sécurité, c'était de dire plutôt d'utiliser un mot de passe qui est compliqué à retenir pour les humains, mais très facile à deviner pour les machines. Utilisez plutôt une phrase de passe, parce qu'elle va être très longue, et avec des mots un peu aléatoires. Enfin, aléatoires, mais pas trop. L'exemple classique de XKCD, c'était Horse Staple, je sais plus quoi, là, alors qui maintenant est interdit un petit peu partout, parce que il y a des gens qui s'en servaient directement.
Mais c'est vrai que le coup de la phrase, c'est plutôt un bon plan, hein, c'est ce que je fais.
Voilà, mais mettez tortue laboratoire docteur, voilà, vous avez un mot de passe qui est parfait. Personne ne le devinera jamais. C'est des mots complètement aléatoires. Prenez une citation de film, une citation de livre, c'est pareil. Il y a très peu de dictionnaires qui essayent des citations de livres. C'est beaucoup plus long à essayer, donc c'est beaucoup moins rentable. À part pour la Bible, donc ne prenez pas la Bible. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui testent des mots de la Bible ou des phrases de la Bible.
C'est très sérieux.
Parce qu'aux États-Unis, ça marche super bien, apparemment. Voilà, comme quoi, quand on est con, hein. Bref. Mais non, mais voilà. Mais c'est un truc tout bête. Hein. Prenez, trois mots au hasard, un chiffre. Les espaces, je rejoins Mecton là-dessus. L'avantage de l'espace, c'est que c'est considéré comme un caractère spécial. Donc, si on vous demande d'avoir obligatoirement un caractère spécial, le simple fait de mettre trois mots avec un espace, eh ben, c'est réglé. Vous avez un caractère spécial, vous en avez même deux. Voilà, mettez un numéro à un moment, au début, à la fin. Alors plutôt au début, au milieu, les gens ont plutôt tendance à le mettre à la fin, donc essayez de le mettre plutôt au début, au milieu. Voilà, faire un bon mot de passe, c'est pas très compliqué. Donc voilà, si vous craignez pour votre compte eShop et votre compte Switch, moi je vous conseille effectivement double facteur, plus un mot de passe éventuellement un petit peu plus solide, et le gestionnaire de mot de passe qui vous permet, en un clin d'œil, vous le retrouvez, ça vous l'affiche, vous pouvez le copier. Vous pouvez même, le gestionnaire de mot de passe de bureau vous permettre même de ne plus taper votre mot de passe, c'est-à-dire que vous faites une petite combinaison de touches et il tape le login, il tape le mot de passe et il appuie sur entrée. Donc c'est quand même vachement confort. Voilà. Sur ce, nous allons faire une petite pause musicale. Alors sur la suggestion de Monsieur Mecton, qui va donc faire l'introduction de ce morceau, alors bien évidemment tu as l'auteur, tu as le compositeur, tu
as... Oh merde, courage.
Alors sachant qu'en plus c'est une reprise.
Alors c'est le thème de Mystic Quest, repris pour le menu de Collection of Mana. Et moi, c'est ma petite Madeleine à moi.
Alors c'est à cause de Mystic Quest ou c'est parce que Collection of Mana? Ah, les deux.
Ouais.
Les deux. Ok, donc on va écouter donc le Alors, c'est une reprise d'un thème de Mystic Quest ou c'est une reprise
c'est
du
thème
du titre
menu. Le thème du titre,
d'accord. Ouais. Ok, donc on va dire le thème principal de Mystic Quest qui a été repris comme thème principal de Collection of Mana. Ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Et donc, nous allons entamer cette petite partie sur la... une petite rétrospective sur la série Mana. Alors, on va commencer par la partie... Comment expliquer ? Alors, on a déjà fait, hein, c'est vraiment juste pour le gag. On a déjà expliqué que Seiken Densetsu au Japon, c'était très compliqué. Donc, le premier épisode s'appelle Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden.
Alors déjà, on peut même revenir un petit peu en arrière.
Encore plus
là-dessus, c'est qu'en fait, à la base, Seiken Densetsu, c'était un jeu Square qui était prévu pour le Famicom Disk System.
Tout à fait.
Avec le sous-titre The Emergence of Excalibur. Et en fait, c'est un jeu qui a été annulé parce que le Famicom Disk System n'avait pas trop de succès. Square a gardé l'IP dans un coin. Et quand est venu le moment où l'IP allait expirer, ils ont dit « Bon, ce serait cool qu'on fasse un truc ». Ils ont demandé donc à Koichi Ishii, donc le créateur de la série Mana et quasiment le réalisateur de tous les épisodes, je crois, de pondre un petit truc. Alors Ishii, c'est pas non plus un mec qui est totalement anodin chez Square, parce qu'il a notamment été à l'origine du concept des cristaux dans les premiers FF, et c'est lui qui a fait en sorte que Amano, donc le type qui a fait les designs des personnages sur les 6 premiers FF, participe au projet. C'est pas non plus un petit gars dans le...
C'est pas rien, oui, on est bien
voilà.
D'accord.
Ils ont pas confié ça à n'importe qui chez Square. Et ouais, donc il y avait l'idée de sortir un spin-off de FF pour étendre un petit peu l'univers, ou le sous-titre Final Fantasy Gaiden. Et comme il y avait ce nom, Seiken Densetsu, qui était dispo, ils l'ont accolé devant, histoire de dire on perd pas la marque.
Oui, en fait...
C'est pour te dire que même au Japon ça part mal.
C'était bassement mercantile en fait. Déjà à la base. Voilà, donc Seiken Densetsu qui veut dire. Alors je crois que c'est la quête de l'épée.
La légende de l'épée sacrée,
oui, c'est ça. Donc Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden qui sort sur Game Boy. Qui sort aux États-Unis donc sous le nom de Final Fantasy Adventures.
Yes.
Et qui sort en Europe sous le nom de Mystic Quest.
Oui. D'ailleurs, c'est pas le premier jeu, de Square qui arrive aux États-Unis et qui est renommé pour avoir Final Fantasy devant, puisque le premier épisode de la série Saga, une série qui s'appelle comme ça chez Square.
C'est Saga Frontier et tout ça.
Saga Frontier, Romancing Saga, et donc les premiers épisodes sont aussi des jeux Game Boy et en fait ont été renommés Final Fantasy Légende aux États-Unis.
Putain, quel bordel.
Donc les mecs, ils étaient à fond pour tout renommer en Final Fantasy. Hein.
Final Fantasy Gaiden.
Final Fantasy Bros.
C'est
voilà.
Ça.
C'est un peu ça, oui. Final Fantasy Ultimate.
Après, c'est...
Non, ça marche pas.
Même Dragon Quest s'était retrouvé renommé aux États-Unis en Dragon Warriors.
Dragon Warriors. Oui, mais Dragon Warriors est resté un truc... En fait, c'est toujours pareil. Square Enix, enfin Square, avant d'être Square Enix... avait remis un peu les pendules à l'heure de toute façon, puisque Final Fantasy VII était sorti worldwide avec le nom Final Fantasy VII. C'est...
Oui, parce que c'est vrai qu'avant Final Fantasy VI s'appelait Final Fantasy III aux États-Unis.
Et Final Fantasy. C'est ça, Final Fantasy IV c'était Final Fantasy II, parce qu'en fait Final Fantasy 1 et 3, enfin les 2 et 3, les vrais, étaient jamais sortis sur NES aux États-Unis. Il n'y a que le premier qui était sorti sur Famicom au Japon et qui était sorti 3 ans plus tard sur NES aux États-Unis, où il n'avait pas bidé mais où il avait eu un succès très mitigé, parce qu'effectivement c'est quand même un jeu qui datait de 85 et qui sort en 88, donc qui était un peu à la rue techniquement.
Je crois que c'est 86 ou 87 au Japon, hein, Final Fantasy.
Ah, je pense que c'était plutôt que ça, moi. Parce qu'il est vraiment sorti tard aux États-Unis, genre 89, enfin tu vois, c'est vraiment... Bon, bref, je revérifierai les dates.
Pour le coup, Dragon Quest, Zelda et Final Fantasy sont un peu dans un mouchoir de poche de genre un an grand maximum entre la sortie des trois premiers épisodes de chaque série. Quoi.
C'est assez pété quand il réfléchit. Je sais pas si vous rappelez le livre d'Oscar qui était le
concernant
l'histoire de Zelda, où il disait qu'en gros, Super Mario Bros et Zelda se tenaient dans un mouchoir de poche à pareil à 9 mois d'intervalle, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est complètement fou quand il réfléchit de se dire les mecs, ils étaient en burn-out de création, enfin de créativité, les gars, donc c'était l'overburn, les mecs, ils y allaient à fond, quoi. Bref. Donc Mystic Quest sur Game Boy, alors moi, j'y ai joué, alors j'ai un souvenir très rigolo à ce sujet-là, c'est quand j'ai pas la cartouche, donc je l'ai pas relancé.
Ah, je l'ai.
Voilà, surtout que ma Game Boy, en plus, elle est rangée. Du coup, je m'étais dit, je vais aller regarder à quoi ça ressemble, parce que je crois l'avoir jamais vu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y ai joué quand j'étais petit dans la cour de récré. Sur ma Game Boy, pour de vrai, parce qu'il y a un pote qui l'avait. Je me souvenais pas du tout ni de la gueule de la cartouche, ni de la gueule du jeu, ni rien. Mais je me suis rendu compte que j'y ai joué en fait à ce jeu-là. Donc, basiquement, pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble à un Link's Awakening en fait.
Ah, bon,
mais complètement.
Voilà, on a un personnage du dessus. Je me demande même, alors je sais plus si il y avait Tardy qui avait fait un petit truc sur un RPG japonais qui s'appelait Pour qui sonne. La grenouille sonne le glas, le truc qui est incompréhensible, et qui en fait a été la base du moteur de Link's Awakening justement sur Game Boy, et je me suis posé la question de savoir si ce truc-là serait pas sur le même moteur, parce que ça ressemble quand même
à Square,
mais non, parce que c'est chez Square.
Je sais pas, je me suis posé la question parce que c'est vrai que d'un point de vue look, alors tu vas me dire c'est un jeu Game Boy, donc c'est vrai qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un jeu Game Boy qu'un autre jeu Game Boy, d'autant plus qu'ils font tous 1m20. Ah non, pardon, ça c'est les Coréens, excusez-moi. merci Thierry Roland. Big up. Mais voilà, donc c'est rigolo parce que j'y ai joué sans m'en rendre compte, mais par contre j'ai dû y jouer genre 20 minutes. Hein, donc 20 minutes quand j'avais 7 ans et demi, ça a dû être un peu compliqué. Donc Mecton, je t'en prie.
Alors moi pareil, tu vois.
Arrose-nous de ta culture.
Non, c'est un petit souvenir d'enfant pareil. Ce jeu, alors la Game Boy. C'est une console que je chéris particulièrement parce que c'est la première que j'ai réussi à me payer à force d'économies sur mon argent de poche.
Putain, la classe.
Si tu veux, je mettais...
La classe.
J'avais vraiment l'impression de m'être saigné pour me la payer, celle-là. Donc j'avais très peu de jeux dessus. Et un petit matin, mon bol de cacao et mes céréales sur les genoux, je regarde Crevette à Télévisateur 2. Et c'est la séquence solution de jeu. Et là, je vois un petit jeu... Petit jeu d'aventure, et la grande information de cette séquence solution, c'était que pour rentrer dans le temple de l'Oasis, il faut faire un 8 autour de deux palmiers. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial. Je connaissais absolument pas le jeu, mais voilà, cette petite astuce à la con m'avait accroché. Du coup, économie. Des mois après, j'arrive à me payer le jeu, j'ouvre la boîte, une carte à l'intérieur, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé le jeu ultime, quoi.
Le réflexe de gamin, c'est quand tu récupères ton premier jeu qui dure plus de X heures en fait. C'est le premier RPG, c'est-à-dire le premier truc où en fait tu finis pas le jeu en un quart d'heure du début à la fin, et quand t'éteins, enfin il y a une sauvegarde et tout ça quoi. T'as l'impression de jouer à un vrai jeu. Pour moi, c'était Illusion of Time par exemple. Je me suis dit tout d'un coup, putain, c'est un vrai jeu quoi. Ça dure du temps et tout.
Moi, c'était le Link's Awakening. Je l'ai fait bien après.
Et donc je démarre la cartouche, première séquence de jeu, on combat dans une arène, machin, il y a un personnage qui meurt, je me suis dit, nom de Dieu, il y a une histoire.
Effet dramatique.
C'est ça.
Wow.
Et voilà, ce petit personnage-là, tu ne le vois jamais, juste il est mort, il y a Willy est mort, je te vengerai. Voilà, j'avais la niaque, je me suis dit, ouais, je sais pas qui c'est, mais je vais le venger.
Je vais leur niquer leur race à toutes ces lopettes.
Exactement. Et plus tu avances dans le jeu, plus... Enfin, là, quand tu le refais aujourd'hui, tu te rends compte que c'est vraiment très cliché et très simple comme scénario. Et moi, dans ma tête, à l'époque, c'était épique.
Franchement, ça m'étonne pas. C'est bien un truc de gamin, en fait.
C'est ça.
De voir les choses plus grandes qu'elles ne le sont, en réalité.
Et du coup, voilà, si je le relance aujourd'hui, celui-là, j'ai ces souvenirs qui remontent. Alors du coup, peut-être que mon jugement est un peu biaisé. mais je le trouve encore assez plaisant à faire, même si il y a une courbe de difficulté qui est peut-être un petit peu étrange. Ça, c'est peut-être inhérent au jeu de l'époque, quoi.
Ouais, souvent, c'est comme ça, les jeux Game Boy, où ils ne maîtrisaient pas encore trop ce genre de concept de difficulté.
Mais c'est-à-dire que tu as des pics de difficulté un peu curieux, c'est ça?
C'est-à-dire qu'au début, tu as tendance à te faire two-shot par n'importe quel mob, jusqu'à ce que tu comprennes le système de niveau. Alors, les menus, il y en a trois dans le jeu, mais voilà, quand c'est ton premier, quand tu n'expliques pas ce que c'est des PV, des PM, c'est compliqué.
Ah oui, surtout si tu l'as acheté d'occasion et que t'as pas le mode d'emploi.
C'est-à-dire, voilà, il y a une carte dans la boîte, mais le manuel, je l'ai lu après. Hein.
parce que nique la police. Hein, je veux
c'est
dire,
ça, ouais. Un manuel qui est à peu près obligatoire. Je pense qu'on en reparlera pour plus tard pour Secret of Mana. Mais va comprendre que tel objet sert à faire telle chose juste avec son nom.
Oui, surtout quand c'est le L de l'R.
C'est ça.
Parce qu'il y en a quelques-uns comme ça dans Secret of Mana.
Et oui, donc au début, t'as tendance à te faire two-shot, donc tu farmes un petit peu. Peut-être que le farming, à l'époque, j'avais tendance à le faire plus naturellement, parce que tu te paumes au début le temps de trouver ton chemin. Et donc tu tapes sur des mobs, machin, tu prends du niveau sans t'en rendre compte. Et une fois que t'es à l'aise, il m'est arrivé de tomber sur des boss où je me dis, j'ai loupé un truc, je suis pas prêt. Je devrais pas en être à ce stade du jeu avec ce niveau-là. Alors qu'en fait, si. C'est juste qu'ils se sont dit, tiens, à tel endroit, tu vas roter du sang avant de passer à la suite.
tu vas en chier des billes carrées, et puis c'est tout. Quoi. Non, mais c'est...
Voilà.
Effectivement, y a, c'est un peu inhérent à ce type de jeu-là, où il faut s'attendre à ce qu'il y ait du grind, pas toujours de bon aloi. Enfin, c'est une époque où, effectivement, y a eu, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas seulement eu un progrès technique dans le jeu vidéo, mais qu'il y a eu un énorme progrès en termes de game design et de compréhension de la frustration du joueur et d'essayer de comprendre l'expérience de jeu. Sauf pour Dark Souls, hein, qui a décidé que le jeu est enculé dès le menu de départ. Quoi. voilà, nique ta mère, Dark Souls.
Tu sens qu'il y a une espèce de blessure narcissique qui n'arrive pas à se refermer depuis 2 ans.
Non, mais le pire, c'est. Non, mais oui, parce que je me dis, n'importe quel connard est capable de finir Dark Souls. Moi, c'est pas que je suis pas capable de le finir, c'est que ça me Dark Soul de le finir.
Voilà, oh mon fait. Dieu, on arrivait à ce niveau de jeu de
merci mort. Beaucoup. merci. Je suis tous les soirs à la salle des fêtes de Bondy. Ah non, bah non, du coup, non.
Bah non.
Je suis confiné tous les soirs à la salle des fêtes de Bondy.
Tout le monde.
Non, attention, interdiction des rassemblements de moins de 5000 personnes, ça veut dire que la salle des fêtes de Bondy va pouvoir rouvrir. Quand même.
Oh, c'est moche.
Autre petit souvenir, pour moi, c'est un des premiers jeux que j'ai fait où j'ai découvert un PNJ qui régulièrement te suit. Alors, soit te suit et t'aide.
Oh.
Alors, pour t'aider, c'est drôle. Hein. Si vous l'avez fait, le jeu, je parle particulièrement du premier magicien dans la grotte qui permet de choper le miroir, machin. Ce magicien est capable de balancer des boules de feu. J'ai relancé le jeu il y a peu, j'ai pas compris quel est son pattern. Pour moi, il les tire complètement au pif. Il les tire au pif, de temps en temps ça touche et t'as l'impression qu'il t'aide.
Voilà, il pif des boules de feu et puis c'est
tout. Ça.
De là à penser qu'une IA sur un jeu Game Boy qui date du début des années 90 est aux fraises.
Oui, non mais voilà, je pensais qu'au moins qu'il tire dans la même direction que là où tu regardes. Quoi. Non.
De là à penser que toutes les IA dans la série Mana sont aux fraises.
Ah, ça, on en reparlera.
Ah, bah oui, on en parlera pour les suivants.
Ouais,
bah justement, voilà, on va enchaîner sur les suivants. Donc, Seiken Densetsu de Ichi.
Tu.
Ni. Seiken Densetsu Ni. qui sortira en Europe et aux États-Unis sous le nom de Secret of Mana. Mm-hmm. Alors, c'est probablement le plus connu en Occident, parce que finalement.
Le seul qui est sorti.
c'est un peu ça aussi. Mais non, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis après. Mystic Quest est un truc. Finalement, ça reste un jeu Game Boy, donc c'est pas confidentiel, c'est sorti un peu partout dans le monde. Il était en c'est français
vrai. Il était complètement en français.
Wow.
Avec une trad un peu charclée pour que les dialogues rentrent dans les textbox.
Il n'y avait pas d'accord du participe passé, par principe.
Aucune idée, je pense qu'ils sont pas emmerdés, tous les textes sont en majuscules.
D'accord.
Ça, je pense que c'est la résolution de la Game Boy plus que, que la traduction.
Link's Awakening, il y avait des majuscules, des minuscules. Hein.
Ah ouais.
Ouais.
Bon, ok. Non, j'aurais
cru. Non, ça s'appelle la flemme, ou alors tous les personnages crient tout le long du jeu.
Mais voilà, après, les dialogues, il n'y en a pas des masses, mais assez pour que l'histoire soit compréhensible. Quoi.
Après, on est aussi à une époque où on parle des textes charcutés où effectivement les problèmes de localisation n'étaient pas du tout pris en compte par les Japonais. Je rappelle quand même que la langue japonaise, en termes d'écriture, n'est pas du tout la même que le français ou l'anglais, et que, à mon avis, effectivement, des trucs charcutés et mal intégrés dans le jeu, c'est pas surprenant. Hein.
Faut que t'imagines, alors y a quelqu'un qui s'était amusé à demander, alors justement, à la personne, alors, je suis désolé, son nom m'échappe complètement maintenant, là tout de suite, ça va me revenir, mais juste après l'émission, en général c'est comme ça, hein, dès qu'on a dit au revoir, ça me revient. La traductrice officielle de Nintendo France pour notamment les Secret of Mana, les Secret of Evermore Noir, donc celle qui a fait que Secret of Evermore commence à Garge, ou à Sarcelles, je me souviens plus.
C'est pas Pontoise ?
Pontoise, oui, pardon. Je me souviens plus.
Valérie.
Valérie quelque chose, c'est peut-être ça. Bref. Expliquait qu'en fait, dans une interview mais assez récente, enfin qui date d'il y a quelques années, qu'en fait la principale contrainte, c'est que finalement les jeux étaient pensés en nombre d'écrans. Et par exemple, dans un dialogue de Secret of Mana, qu'elle a traduit aussi, quand un personnage a un écran pour parler et que le suivant en a deux, ben en fait tu ne peux pas changer ça. Donc t'es obligé qu'il y ait finalement un écran pour faire comprendre quelque chose sur le premier truc, et deux écrans sur le deuxième, point. Tu peux pas rajouter un troisième écran, rajouter un quatrième écran. Donc forcément, en japonais, en un écran, on arrive à exprimer beaucoup de choses, parce que on a deux syllabaires et des kanji, donc effectivement, on peut exprimer énormément de choses, et puis en plus, la langue japonaise a tendance à être très condensée, on peut exprimer beaucoup de choses en assez peu de mots, finalement, et donc encore moins de signes. Par contre, en français, c'est très compliqué. Très 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 compliqué. Et c'est pour ça qu'il y a certaines traductions françaises qui ont été mais totalement charcutées, mais de manière assez violente, alors notamment Illusion of Time, on en avait déjà parlé dans une émission spéciale où la traduction française était quand même bien charclée, mais la traduction anglaise par rapport à la version japonaise était aussi, ça a été taillé à la serpe, violent quoi. Et Secret of Mana fait partie de ces jeux qui ont été bien charclés, en plus de disposer de quelques petites spécificités françaises bien de chez nous.
Les lapinous.
Qui se font brosser.
qui se font rosser. La traduction française, la traduction de quasiment tous les prénoms des personnages dans des prénoms français, c'était le cas déjà pour Illusion of Time, où le personnage principal s'appelle Will dans la version anglaise, allemande, espagnole, portugaise, italienne et machin, mais en français s'appelle Paul. Voilà.
Oui, c'est vrai, il y a ça.
On est en France, c'est la France ici, monsieur. Donc on parle français. Donc voilà. Et alors Secret of Mana, je me souviens plus parce que ça fait très longtemps que je ne l'avais ni lu ni vu. Mais il me semble qu'il y a des douilles comme ça avec genre les noms des marchands, je sais pas quoi, il y en a qui s'appellent Cédric ou Serge ou un truc comme ça, enfin alors que ça, ou Bernard. Bernard la chauve-souris.
Bon, après, Serge, c'est pas choquant, il y a le héros d'un autre RPG de Square qui s'appelle Serge. Dans toutes les langues.
Éric le pangolin.
Éric le pangolin.
Moi, honnêtement, j'aurais préféré que ce soit un hérisson, le... Enfin, bref.
Ah, tu veux du fun fact sur Secret of Mana ?
Ah, moi, je veux du
fun fact sur... J'en ai sous la main.
Secret of Mana... Alors déjà, je finis juste un tout petit truc. Donc,
qui a fait l'IA ?
Ça a été un truc très populaire pour plusieurs raisons. Petit 1, il était intégralement traduit en français. Petit 2, il était édité par Nintendo en France parce que... ce genre de jeu-là, c'est-à-dire des jeux finalement relativement risqués et qui coûtaient relativement cher, on reviendra dessus un peu après, mais était généralement édité par Nintendo. Bon, donc je crois que Square n'avait pas de présence en Europe à cette époque-là.
C'est ce que j'allais dire. Et puis je crois que même à part la suite sur PlayStation, c'était pas eux qui distribuaient, c'était genre Electronic Arts.
C'est
comme
Sony
ça.
Qui a distribué un certain nombre de trucs sur PlayStation de Square, mais effectivement il y a peut-être Electronic Arts qui faisait aussi la distrib. Je sais qu'il y a eu quelques curiosités, genre Capcom qui faisait la distrib de Bandai pendant un moment en France. Enfin,
bref, à une époque, c'était pas Bandai qui distribuait la NES en France d'ailleurs ?
Si, au tout début. Au tout début, c'était Bandai parce qu'ils avaient les circuits de distribution, ce que Nintendo n'avait pas. Mais dès que Nintendo of Europe a débarqué, en fait, ils ont commencé à essaimer un peu partout en Europe, sauf en Finlande ou en Norvège. En Finlande ou en Suède. Peut-être les deux. Il faudra un jour qu'on raconte cette histoire. Parce qu'elle vaut le coup d'être racontée, mais on va pas s'étaler là-dessus. Mais en fait, Nintendo of Sweden n'existe pas, en gros. Il n'y a pas de Nintendo Suède. C'est une autre marque qui s'appelle je sais plus comment. Et voilà. On racontera cette histoire-là un autre jour. Je vous enverrai éventuellement un petit lien vers quelque chose d'intéressant. Et je pense que.
Grande aventure de Nintendo en Europe.
C'est un peu ça, mais il y a vraiment des choses à raconter. La réorganisation de Nintendo France à quelques semaines de la sortie de la N64 qui l'a retardée de plusieurs mois et qui fait que les magasins frontaliers en Alsace allaient les acheter en Allemagne pour les revendre 50 euros. Enfin, l'équivalent de plusieurs centaines de francs plus cher en France, par exemple, je pense que ça vaut le coup d'être raconté.
Ouais, ben ça, c'est vrai que c'est une belle histoire. Ça,
c'est une très belle histoire aussi. Bref, donc Secret of Mana a eu un grand succès pour ça, parce qu'il était traduit intégralement en français, c'était quand même, il y avait très peu de jeux. Il est sorti à Noël, je sais plus quoi, donc c'était vraiment le jeu qui était poussé par Nintendo avec beaucoup de marketing et tout. Et surtout, il était fourni avec un guide stratégique à l'intérieur de la boîte, donc c'était une des voilà, t'as la boîte de Super NES qui était dans une espèce, tu sais, de feuillet plastifié rigide, que en fait tu galérais à le découper et que t'essayais de découper un peu en bas, mais pas trop pour pas déchirer le manuel, tu vois, parce que c'est chaud. Et donc tu avais ce guide qui te permettait éventuellement de finir le jeu quand t'étais petit, parce que bah, c'est chaud quand même. Moi, je me rappelle pour Illusion of Time, le manuel, au départ, je m'étais dit, ouais, j'ai pas besoin du guide, je suis un homme en vrai. Et puis, en fait, dès le deuxième donjon, je me suis dit, ah, quand même, on va peut-être sortir le guide. Voilà. Et là, en fait, il a eu un très grand succès pour ça. Et parce qu'aussi, il était multijoueur. C'est-à-dire qu'on pouvait y jouer jusqu'à 3.
Avec le bon accessoire.
Avec le multitap Nintendo, qui coûte aujourd'hui une couille. Et moi, en fait, je n'ai jamais eu ce jeu quand j'étais petit. Du coup, en fait, j'y jouais avec un pote, on jouait à deux, et en fait, notre grand jeu, c'était d'essayer de perdre l'IA. Ce qui est pas difficile.
Non, c'est très facile. Prends un escalier, c'est réglé.
C'est ça, voilà, c'est le truc absolument atroce. Mais bon, voilà, donc c'est juste. Ça a eu quand même un très gros impact. Alors, aux États-Unis aussi, enfin en Amérique du Nord de manière générale aussi, c'est un jeu qui a très très bien marché.
Ça me surprend d'ailleurs. Aussi.
Non, parce qu'en fait, ça reste quand même un action RPG.
Ouais, mais justement, je m'attendais à ce que le côté bourriner les attaques, ça ne marche pas. Je m'attendais à ce que ça leur plaise pas.
Ben, ouais, mais au final, il s'est mieux vendu, me semble-t-il, que les trucs genre Earthbound et les Final Fantasy 2 et 3 et tout ça.
Earthbound, la campagne de pub qu'elle est avec, a vraiment pas aidé. Je pense que pour le coup, aux États-Unis, ça a mieux marché aussi parce que le public américain est plus friand de RPG typé action que de RPG typé tour par tour. D'ailleurs, ça se voit un petit peu dans leur production grand public, c'est surtout des RPG action.
Puis il y a aussi une ambiance un peu particulière qui plaît peut-être un peu plus à un public occidental. Je veux dire, c'est moins.
Ça ressemble à Zelda.
C'est ça, puis ça reste de la, entre guillemets, de l'heroic fantasy un peu traditionnel par rapport à un Final Fantasy 3 où t'as cette espèce de mélange heroic fantasy, steampunk, futuro truc.
Final Fantasy 3, enfin Final Fantasy 6 du coup.
Tout à fait.
C'est vraiment très très à part en termes de design. Là où Secret of Mana effectivement est très fantasy classique et puis et je pense qu'il y a un truc tout bête aussi, c'est que Zelda c'est une série qui marche extrêmement bien aux États-Unis et Secret of Mana c'est peut-être la série justement qui se rapproche le plus d'un Zelda en termes de game design et d'esprit parce que c'est une vue de dessus, c'est des combats en temps réel.
Oui, mais même de visuel, enfin je veux dire tu mets les deux jeux l'un à côté de l'autre.
C'est pas exactement pareil.
Non, mais... c'est pas le même style, mais c'est une vue du dessus, t'as une épée, tu te balades, c'est pas l'austérité des combats aléatoires et du tour par tour.
C'est ça.
Et je peux comprendre que ça séduise le public. Maintenant, on to the anecdote, puisque monsieur Antix.
Ah, je suis chaud.
Plaisir de lire.
En fait, j'ai profité qu'on fasse l'émission pour ressortir le troisième tome d'une série de magazines qui s'appelle Level Up, qui était publiée jusqu'à encore. Ans par Third Edition, c'est français. En fait, le troisième tome était consacré entièrement à Seiken Densetsu. Et du coup, il y a pas mal de petites anecdotes. Donc, ce que j'ai dit avant sur Mictus Quest, ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment tiré de ce bouquin. Et en gros, Secret of Mana, à la base, c'était un jeu prévu pour la Nintendo PlayStation, donc le support CD de la Super Nintendo dont on a parlé il y a deux semaines. Et c'est issu d'un jeu qui devait s'appeler Chrono Trigger à la base. Et alors après que le deal entre Sony et Nintendo ait capoté, bah en fait ils ont séparé le jeu en deux. Il y en a un, c'est devenu donc Secret of Mana 2. Et le contenu qui n'avait pas été mis dans Secret of Mana a servi à faire Chrono Trigger par la suite.
D'accord.
Voilà.
Seiken Densetsu 2 en fait est un et c'est le rejet, enfin c'est le comment dire le.
Il reste.
Les restes de Chrono Trigger, quoi.
Non, c'est plutôt l'inverse, en fait, mais...
Chrono Trigger, c'est les restes, putain, la vache, c'est des sacrés restes.
Génial, du coup. Ouais.
Bah, voilà, t'as quand même un vase à la jeu qui devait combiner les deux. Bon, après, dans les faits, Chrono Trigger étant sorti 2 ans après Secret of Mana, je pense quand même qu'ils ont changé pas mal de choses après.
Oui, on peut supposer.
Et voilà, on parle quand même d'un projet qui était quand même plutôt ambitieux à la base, vu les deux rejetons. Et voilà, et ça a été aussi la première, c'est la première fois que Kikuta s'occupe de la bande-son sur un Secret of Mana.
Ce qui fait que c'est la meilleure bande-son.
Mystic Quest, donc c'était Kenji Ito, qui est notamment connu pour la série Saga, encore, j'en parle.
Ok.
Voilà, c'était pour l'anecdote musicale. Et moi j'y avais un peu joué à Secret of Mana, et en fait le côté justement tu peux pas bourriner les attaques, ça m'a pété les couilles.
C'est particulier, faut avouer.
Bah, en fait ça marche super bien, enfin c'est une astuce toute conne, hein, mais si tu joues tout seul, ça marche super bien si tu appuies sur le bouton select pour changer de personnage. C'est-à-dire qu'en fait tu donnes un coup d'épée, t'appuies sur select, tu donnes un coup de lance avec un autre perso, t'appuies sur select, tu donnes un coup de boomerang avec un troisième. Mm. Et en fait du coup comme l'IA, t'as une espèce de grille sur laquelle tu peux dire est-ce que tu dois économiser ton pouvoir, plutôt être agressif, plutôt être défensif et ainsi de suite. Si tu te débrouilles bien, tu arrives à régler tous les petits personnages sur plutôt défensif, plutôt essayer de garder que d'attaquer, enfin que de bourriner. Et tu peux très bien t'en sortir effectivement en alternant entre les personnages. Et quand ils jouent à deux, c'est pas gênant du tout, parce que finalement tu te débrouilles avec ton pote pour plutôt alterner. Ouais. Effectivement, je donne un coup, attention, voilà, je vais me placer là, tac, vas-y, donne un coup. Et en fait, ça donne un rythme un petit peu curieux, mais qui marche pas trop mal. Donc c'est mon astuce pour Secret of Mana. Si vous voulez jouer aujourd'hui et que vous voulez éviter effectivement de dire si je bourre, ça marche pas. Au début on peut pas le faire, mais en fait très rapidement on se retrouve avec un deuxième personnage puis un troisième. En fait ça arrive assez vite, je sais pas, au bout de 3 heures de jeu je crois qu'on a déjà les 3 personnes.
Un peu moins, ouais.
Ça va quand même. Enfin voilà, même en prenant ton temps t'arrives assez rapidement à avoir les trois persos. Et donc oui, l'idéal pour moi c'est d'alterner en fait. C'est-à-dire effectivement frapper, changer de personnage, frapper, changer de personnage, frapper, changer de personnage, et en fait on s'ennuie jamais. En plus ça permet vraiment de pas laisser l'IA gaspiller toute sa mana, enfin gaspiller tous ses points de magie. Dans le vent, parce que ça aussi ça arrive.
Ouais, c'est clair.
Nous ne citerons pas d'IA, mais voilà, hein, suivez mon regard. Voilà, donc c'est bon. Après, le l'IA foireuse reste quand même un truc un peu casse-couille.
De la série.
Ouais, bon. Il y a eu un remake qui faisait un petit peu jeu mobile chinois.
PS4 et PS4.
Qui était dégueulasse. Qui d'ailleurs était d'une qualité extrêmement discutable, parce que c'est vraiment le remake bête quoi, enfin je veux dire hyper basique, pas deux rondes réinvention de quoi que ce soit.
Bah, en fait ils ont pris le jeu en 2D et ils ont tout refait en 3D. Ils ont même pas changé la vue de mémoire.
C'est à peu près ça, ils ont même pas changé la vue, si de certaines cinématiques. Et encore.
D'accord. Et tiens d'ailleurs, en parlant de remake, il y a aussi un remake de Mystic Quest, alors qui n'est pas celui dont on parlera un petit peu après, mais qui est sorti sur mobile, qui s'appelle Adventure of Mana. Et un truc apparemment assez dégueulasse.
Ça n'existe pas.
Je précise que ça existe.
Voilà, on va zapper volontairement Seiken Densetsu 3, qui n'est jamais sorti au dehors du Japon, qui aujourd'hui s'appelle officiellement en dehors du Japon Trials of Mana.
Mais quand même, c'est un peu le gros. Comment, ça fait partie des jeux import de la Super Nintendo qui sont assez populaires. Au point qu'il y a eu donc une version traduite par des fans en anglais, ça c'est rien de nouveau.
Sous le titre Secret of Mana 2.
Voilà, et il y a aussi eu une version patchée française de Seiken 3. J'ai fait le jeu comme ça d'ailleurs à l'époque. J'avais joué en émulation. C'est un jeu qui est sorti, je crois, 95-96.
Au Japon, donc c'est-à-dire quand même très très tard. Il faut se rappeler que la PlayStation est sortie en 94 hein, au Japon.
Ouais. Et en gros, ça fait partie des jeux de fin de Super Nintendo, de Squaresoft, où ils étaient vraiment à leur top. Donc ça va après du FF6 et après du Chrono Trigger, où clairement les mecs maîtrisaient la machine et d'un point de vue artistique étaient vraiment au top.
Qu'est-ce qu'il est beau, ouais.
Ken 3, c'est un jeu magnifique.
Et même encore aujourd'hui, hein, quand tu le relances, il est impressionnant.
Je l'ai lancé pour la première fois dans Collection of Mana, je dis waouh.
Ça tourne sur une Super NES, quoi.
Voilà. Moi, tu vois, quand je vois on en reparlera après, je pense, mais c'est vrai que moi, quand je vois les screenshots de la version Super Nintendo, je me dis, ouais, j'ai envie d'y rejouer, tu vois. Et c'est assez cool. Et c'est un jeu qui a pas le budget en plus, parce que bon, le Secret of Mana s'est vendu quand même à plus d'un million d'exemplaires, je crois, en tout. C'est un bon score, hein, mine de rien.
Surtout à l'époque, il faut se rappeler. Voilà, on revient 30 ans en arrière. Hein, donc,
C'est aussi pour ça qu'il y a une grosse montée aussi technique sur le jeu. C'est parce que globalement, il y a plus de budget. Et ils se sont même fait plaisir. Ils ont embauché un mec qui s'appelle Nobu Teruyuki. Donc, character designer. Un nom qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais en gros, le gars est connu pour avoir fait le character design des chroniques de la guerre de Lodos et de Vision à Fescaflon.
Ah, excellent.
Ce sont deux animes qui sont plutôt populaires en France de mémoire d'ailleurs.
Et avec des grands
tout
nez.
À fait.
Et voilà, et en fait, oui. Effectivement, j'ai regardé le design des personnages féminins, j'ai fait, ouais, effectivement, on dirait l'elfe. On dirait l'elfe de Lodos.
D'ailleurs, je vous recommande. Alors, les chroniques de la guerre de Lodos, c'est un truc que je peux vous recommander. Vision of Escaflowne est aussi un truc que je peux vous recommander parce que ça se regarde encore très très bien.
Lodos, il n'y a pas longtemps, j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire, mais ça se regarde bien.
Lodos, ça se regarde bien. C'est pas foufou, mais ça se regarde bien. Je trouve que Vision of Escaflowne est plus intéressant sur certains trucs, même s'il y a une espèce de ventre mou. Au milieu de la série, qui est un peu... Oui, voilà, ce qui est
mais
un peu...
Mais la BO
comme ça dans les souvent comme ça dans les animes un peu longs des années 90, où il y a un petit ventre mou au milieu quand ils savent pas trop, ils
en
font...
C'est ça, il y a 23 épisodes, et en fait, ils auraient facilement pu en couper 5 sans aucun problème.
D'ailleurs, je pense que c'est là, tu vois que c'est la série qui est sortie après Final Fantasy VI, parce que quand tu regardes le Royaume des Méchants, tu fais, on dirait l'Empire de Final Fantasy VI.
Les méchants.
Le méchant ressemble au méchant de Final Fantasy VI, c'était parfait.
Non, mais oui, voilà, mais de toute façon, enfin, il y a un mec qui a les cheveux longs, qui est blond, hein, c'est le méchant, quoi.
Oh, c'est un vieux barbu.
Bref.
Bref.
Donc on va pas trop s'étaler sur Seiken Densetsu 3, à part effectivement pour préciser ça, c'est-à-dire ça fait partie des cartouches import un peu populaires, et ça fait partie effectivement des fan-trades. Enfin, je vais pas dire que c'est le jeu qui a lancé les fan-trades, mais ça fait partie des jeux qui ont vraiment attiré la curiosité d'un certain nombre de joueurs qui avaient joué à Secret of Mana, qui se disaient « Merde, en fait, il y a une suite seulement au Japon, c'est con, j'aimerais bien y jouer. » Donc voilà. Et c'est vrai que là-dessus, ça a une certaine importance aussi sur cette scène de fan-trades, ce jeu-là en particulier, parce que là, il y avait vraiment un effort de traduction à faire, contrairement à... Bon, y a certaines fan-trades où, en fait, c'est juste rendre les menus ou le jeu un petit peu plus accessible, ce qui est une très bonne chose, hein, mais... On n'est pas, à traduire un vrai scénario, un vrai dialogue, des interactions entre des personnages, essayer de réfléchir, traduire des jeux de mots aussi, enfin voilà, des trucs qui peuvent être éventuellement un peu compliqués.
Après Seiken 3 n'est pas non plus le jeu le plus verbeux de la Super Nintendo, mais voilà. Ça reste quand même, c'est pas Mario, quoi.
Je pense que personne n'a joué à Seiken Densetsu Legend of Mana,
sur
PS1.
Mais je peux peut-être en parler rapidos.
Mais je t'en prie.
Alors c'est un truc, apparemment à la base ça devait être un projet en 3D et qui est après revenu sur la 2D parce que les ambitions de Koichi Ishii, donc je reviens sur le monsieur, étaient trop élevées pour ce que la PlayStation pouvait faire, donc il est revenu sur un jeu 2D et c'est un titre qui a la particularité en fait où tu vas reconstruire le monde de A à Z, c'est-à-dire que t'as pas une grande carte du monde comme on a l'habitude dans les RPG. Tu vas devoir placer en fait les lieux sur des cartes, voir du coup s'influencer entre eux. Je crois que notamment c'est pour tout ce qui est la gestion des éléments, selon comment tu places deux trucs, tu vas peut-être avoir un ou encore un élément renforcé. Du coup, c'est apparemment un concept un peu étrange. Alors, j'ai pas vraiment l'occasion d'y jouer, mais c'est un jeu qui a un certain nombre de fans. Et c'est aussi le jeu qui... Yoko Shimomura débarqué sur la série sur la composition et qui apparemment est une de ses bandes son préférées.
D'accord.
Voilà. Non,
c'est intéressant à savoir. Alors, le problème, c'est que je sais même pas s'il est sorti du Japon celui-ci.
Je crois qu'il est sorti aux US en dehors du Japon. Ouais. Pas sorti en Europe, c'est sûr.
C'est pas sorti en Europe, oui, ça c'est bien possible. Ensuite, nous avons Shinyaku Seiken Densetsu, alias Sword of Mana, qui est en fait, alors de ce que j'ai compris, un remake du premier Seiken Densetsu.
Ouais,
mais sur Game Boy Advance.
Le trailer Shinyaku, c'est un peu une façon de dire la nouvelle version, en gros.
Je
fais une traduction genre un peu approximative, mais globalement, l'idée est là.
Cet homme parle japonais.
Ouais, cet homme lit des bouquins qui parlent de Secret of Mana. Aussi. Mais ouais, non, globalement, l'idée, c'est...
Mais c'est HD Remaster Plus, quoi.
Ouais, pour le coup, ouais, tu passes de la Game Boy à la Game Boy Advance, bonjour le HD Remaster. Hein. De mémoire, en plus, c'est un jeu qui est magnifique sur Game Boy. Enfin, c'est un très beau jeu 2D. Un peu dans la continuité de Seiken 3 en termes de fourmilance dans le détail et de beauté de la 2D. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais ouais, globalement c'est un peu une façon de réécrire Quest en retirant toute la partie Final Fantasy qu'il y a pu avoir avant, en gros.
Ok.
Retirer toutes les références à Final Fantasy ou... Enfin, ça va jusque-là?
Ouais, en gros, c'est un peu la façon de dire on devient indépendant de... Pas Final Fantasy, c'est-à-dire pour le coup dans la version japonaise, il n'y a pas Final Fantasy Gaiden dans le titre, quoi.
Oui, d'accord, c'est une espèce de réimagination du premier en fait, plus qu'un remake. D'accord. Alors ensuite, alors après ça va devenir beaucoup plus obscur parce que c'est des jeux qui n'ont pas forcément très bien marché, qui sont même plutôt fait descendre par la critique, que je les évoque vraiment pour le principe, mais moi je n'en avais même jamais entendu parler, en tout cas Children of Mana.
Alors j'y ai joué.
Sur DS, et donc
yes. J'y ai joué, c'est un dungeon crawler et c'était pas fou. Pas fou. Hein.
Il y a donc Dawn of Mana sur PS2, que je ne connais pas non plus.
Et en fait, Seiken 4.
Oh putain.
Le savais-tu ?
Eh bien non, je n'avais pas retrouvé le titre dans ma petite fiche.
Ils sont numérotés, mais on est d'accord, il y a autant de suites de l'un à l'autre qu'entre deux FF.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Non, mais attends, du coup, Children of Mana, c'est une espèce de spin-off, en fait ? Ou pas ?
J'en sais rien, apparemment ce serait dans la continuité, mais alors c'est comme Zelda. Hein.
Tu vois Pokémon, tu vois Pokémon Donjon Mystère,
oui.
C'est le même lien, quoi. C'est...
Non.
Même univers, même...
D'accord, admettons que je n'aime pas look, Pokémon Donjon Mystère. Est-ce que tu es capable de me faire la même chose, mais avec Dark Souls ?
Alors tu vois, c'est quoi Sekiro ? Tu vois Dark Souls ?
Oui.
C'est la même chose, mais genre...
Non, ouais, je le vois pas.
On peut aller loin, on peut aller loin comme ça.
Bon, donc on a eu Dawn of Mana sur PlayStation 2, alors pareil, inconnu au bataillon, je suis désolé.
Pour le coup, moi j'avais vu qu'il était en développement et je ne savais même pas qu'il était sorti. J'ai découvert ça en lisant le bouquin il y a quelques années. Qu'il y avait eu un Seiken 4 qui était vraiment sorti. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça existait.
Oh la vache. Ah, le truc est assez fou.
Et apparemment, il est pas terrible. Hein.
Et donc le dernier, alors après, il y a eu une série de jeux mobiles qui doivent être à peu près tous aussi infâmes les uns que les autres.
Oui, bah c'est un jeu mobile japonais. Hein.
Jeu mobile japonais.
Candy of Mana.
Candy of Mana.
Est-ce qu'elle est Magical Girl, Léo?
En vrai, s'il y avait vraiment ça, ça me ferait triper. Et donc, il y a eu un Heroes of Mana sur DS.
Et apparemment, c'est un jeu stratégie en temps réel.
Mon dieu, mais les mecs bouffent à tous les râteliers, quoi.
Je crois que j'ai joué à ça.
Donc en fait, tout ça, c'est du spin-off, quoi, en gros. C'est ça, à part Seiken 4.
À part Seiken 4, et Seiken 4, tout le monde veut l'oublier, donc...
Putain, la vache.
Et de ce que j'ai compris, avec les échecs de Seiken 4 et de Heroes of Mana, apparemment, Ishii, c'est ce qui a fait qu'il s'est dit, je vais me barrer de Square. Et il a fondé... alors, c'est Grezzo, donc les mecs qui ont fait les remakes de Ocarina of Time et Majora's Mask sur 3DS.
Bien joué.
Et qui a fait Ever Oasis, qui est... Ah, Secret of Mana. Voilà.
Oui, ça c'est certain que...
C'était pour boucler la boucle.
Les chiens font pas des chats. Alors, à propos de boucler la boucle, on va justement se faire une petite pause musicale avant d'évoquer assez brièvement Trials of Mana, le remake. Alors Trials of Mana tout court éventuellement, et puis Trials of Mana, le remake. Et on va s'écouter une suggestion de Monsieur Antix, si je me rappelle bien.
Ouais.
Qui est Leave Time for Love, Mana Fortress, sur la bande originale de Secret of Mana.
Du coup, comme son nom l'indique, c'est le thème de la Mana Fortress. Alors, honnêtement, moi, j'ai pas joué au jeu, c'est juste que j'écoutais la bande-son, il y a celle-là qui est passée, j'ai fait Mortal, elle est pas mal.
D'accord. Moi, je me souviens pas du tout de ça dans la bande-son, parce qu'en fait, je me souviens très peu de la bande-son de Secret of Mana, parce que j'y jouais essentiellement à deux en gueulant sur l'IA.
Oh, même l'écran-titre.
Si, l'écran-titre, si.
Ah, l'écran-titre est assez mythique. Hein.
Mais si tu veux, quand tu n'y as joué que à deux chez ton pote... un samedi après-midi sur deux pendant 2 mois et que t'as finalement pas tellement avancé dans le jeu parce qu'en 3 heures le samedi après-midi t'as pas tellement le temps d'avancer dans un jeu comme ça, compliqué. Voilà. Bref, donc on va s'écouter ça dure juste 1 minute et demie tout pile, voilà, et on se retrouve tout de suite après. Non, c'était très très court, hein, j'avais prévenu. Très 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 court.
That's what she said.
Non, ceci est interdit. Bref, donc nous allons passer à Trials of Mana. Donc Trials of Mana, pourquoi est-ce qu'on se fait chier au parler de Secret of Mana depuis le début de la soirée ?
N'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Est-ce que c'était ça ou Dark Souls ?
Vous voyez bien que Dark Souls ne fait pas du bien à Mortal.
C'est pas tout à fait la même ambiance. Voilà. À une vache près, hein, c'est pas. C'est subtil hein, comme différence. Hein, mais...
À une vache près, on me dit dans l'oreillette que c'est la même chose qu'être en confinement avec ses enfants en Dark Souls. C'est la même ambiance.
Non, pas tout à fait, parce que tu trouves quand même beaucoup plus souvent un bout de chocolat coincé sous le canapé que les chaussons sacrificielles de Lothar Ier. Voilà. T'as quand même ce. ce petit désavantage. Mais c'est vrai que maintenant, il resterait le confinement niveau 2, c'est-à-dire c'est plutôt le Battle Royale confinement, c'est-à-dire tous les jours, tu enlèves une pièce, tu vois, de l'appart dans lequel t'as plus le droit d'aller.
C'est une no-go zone.
Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein.
Option sur les chiottes.
Moi, je vais vite retrouver à l'étroit si je fais ça.
Ah non, mais après si t'es dans un appart déjà assez petit, tu peux réduire d'un mètre carré par jour, tu vois, mais c'est pareil, c'est le petit défi,
ça,
tu vois.
Ça prend du temps.
Bref, donc Trails of Mana, qui est donc ressorti dans un magnifique écran.
Donc, qui est ressorti deux fois en l'espace d'un an, quand même.
C'est ça, parce qu'il est sorti dans Collection of Mana.
L'été dernier. Juste après l'annonce du remake. Trials of Mana, qui est sorti vendredi dernier.
Vous vous doutez bien qu'on n'a pas eu le temps de finir le jeu. Je parle pas que pour moi, je sais qu'on l'a... Alors la démo est sortie un petit peu plus longtemps que ça, et on est nombreux à avoir, pas forcément saigné la démo, mais en tout cas à l'avoir téléchargée et y avoir joué, à s'être dit « putain, c'est quand même sympa ». Enfin moi, en tout cas, c'est mon cas, j'ai fini la démo.
Moi, j'ai juste fait le jeu d'origine, et j'ai fait qu'un scénario du jeu d'origine.
T'as fait qu'un scénario du jeu d'origine. Donc, justement, est-ce que tu veux bien nous expliquer cette petite particularité de Trails of Mana ?
Alors, quand on commence Trails of Mana, quelle que soit la version d'ailleurs, la première chose qu'on fait au début de partie, c'est de choisir un personnage parmi les six. Et en fait, ce personnage deviendra notre personnage principal dans l'aventure. Qu'est-ce que ça change ? En fait, ça va déterminer où est-ce que l'aventure va commencer, et aussi 2-3 éléments du scénario, notamment certains ennemis affrontés et le boss final.
C'est un peu presque façon Octopath Traveler, finalement.
Mmh.
Chaque personnage a son point de départ à lui.
Voilà, la petite subtilité, c'est qu'après avoir choisi ce personnage principal, tu vas en choisir deux autres qui seront tes compagnons, et qui vont t'accompagner dans l'aventure. Donc ce que j'ai vu dans le remake, ce qui n'est pas le cas dans le jeu d'origine, c'est que tu peux voir l'introduction de ces personnages. Dans le jeu d'origine, c'est pas le cas, tu vois l'introduction que de ton personnage à toi. Et du coup, comme je disais, il y a 6 personnages, t'en choisis que 3, donc c'est-à-dire qu'il y en a que 3 avec lesquels tu ne joueras pas. Et tu ne les auras jamais de la partie, si tu veux jouer avec eux, faudra en faire une nouvelle.
Tu les croises même pas ni rien, c'est pas des NPC
Je crois que tu les croises parce qu'il y a des parties de l'aventure auxquelles ils sont liés, et certains boss ou certains lieux que tu visites auxquels ils sont liés, puisque tu vas quand même par faire un peu tout le tour du monde quasiment, je crois. Et la particularité en fait de ce système, c'est que en fait les personnages fonctionnent par paire. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois donc tu as un personnage masculin, un personnage féminin dont les scénarios vont être liés, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver finalement à affronter les mêmes ennemis, le même boss final.
D'accord.
Et donc ce qui fait qu'en fait tu as au final 3 scénarios différents dans le jeu. Donc de mémoire les pairs c'est Duran le guerrier et Angela la magicienne qui est la première paire. Et de ce que j'ai cru comprendre c'est le scénario où le boss final est le plus simple. Alors c'est celui que j'avais fait à l'époque. Avec les deux personnages dans mon équipe. Ensuite tu as Kevin le loup-garou et Charlotte la prêtresse, donc oui les noms ne se refont pas.
Ok.
Et c'est vraiment les noms d'origine.
C'est les noms d'origine, je précise.
Ils n'ont pas été renommés dans la version française.
C'est pas... Alors si, dans la version française ils ont été renommés, hein. Charlotte est devenue Francette.
Tu crois qu'il ait claqué un nom japonais dans la version française.
Et Kevin est devenu Hitoshi.
Non, alors ne rigolez pas, parce que alors, je suis désolé, c'est vraiment pas gentil de se moquer, mais tout à l'heure je lisais un article dans Mediapart où apparemment la représentante du syndicat des profs en France, enfin la présidente du syndicat des profs en France, s'appelle Francette Popineau.
Ouais, ça s'invente pas.
Et moi, je suis désolé, j'ai éclaté de rire, c'est vraiment pas gentil. J'ai dit français,
tu peux pas faire plus français, quoi.
Et voilà, quand tu t'appelles Popineau, bah c'est chaud patate, quand même. Hein. Voilà, donc voilà, désolé.
Et là, du coup, désolé. Il nous reste un dernier duo qui est Okai le voleur et Riz, la Valkyrie.
Qui a donc été renommé Ahmed.
Oh non. Oh mais quel enfer.
C'est Dark Souls d'émission, mec. Tu peux pas tester.
Ah ouais, c'est horrible.
Le voleur et la Valkyrie.
Et qui a priori, et alors de ce que j'avais cru comprendre aussi, est le scénario le plus dur, mais pour le coup, c'est vraiment celui auquel je n'ai pas touché. Moi, j'avais juste fait le scénario de Duran en entier et la moitié du scénario de Kevin, où je m'étais arrêté, je sais plus à quel moment, où je me faisais bolos par les ennemis. Je crois que c'est quand tu fais un tour dans la forêt des loups-garous et ils te roulent dessus.
Attends, mais juste pour que je comprenne, en fait, c'est. En gros, si tu prends Duran. C'est la version française, hein, il s'appelle Durand, avec un T. Donc si tu prends Durand et Machine, Angélique.
Efankua, Alombadombala, Angela.
Angela.
Comment elle s'appelle,
mais sans si, si tu prends le bon couple, tu joues un scénario particulier, mais si tu prends Duran et que tu prends pas du tout, tu prends deux autres personnages, tu joues quand même le scénario, ce scénario-là.
Alors, c'est ton scénario est déterminé par le premier que tu choisis.
D'accord.
Si tu prends Duran et qu'après tu prends Kevin et Charlotte, qui ont donc un scénario qui va être différé, faut quand même se dire qu'à peu près 75% du jeu est le même, hein, quel que soit le personnage. Donc c'est pas non plus évident. Une énorme différence. C'est quand même le scénario de Duran que tu vas suivre. Donc tu vas affronter le boss de Duran, le boss final de Duran, les phases spécifiques au scénario de Duran et donc de la magicienne. C'est ça que tu vas faire.
Et si tu inverses les personnages, c'est-à-dire tu prends Duran et tu prends son homologue de scénario, vous ne voulez rien dire comme phrase, mais c'est très bien. Si tu inverses, tu prends son homologue de scénario et Duran, en fait, tu joues toujours le scénario de Duran, en fait.
Ouais, c'est mais du coup, comme ils ont le même scénario, enfin, c'est le scénario de Duran et Angela.
Oui, ça change l'intro, c'est ça.
Donc ça changera l'intro.
Mais pas le reste, quoi.
Mais pas le reste.
D'accord.
Ce sera la même chose. Mais c'est plus intéressant d'avoir les deux, puisque, enfin, en tout cas, si on s'intéresse à la partie scénario, que forcément, ben, le fait d'avoir les deux personnages qui sont liés à ce scénario fait qu'ils vont réagir. Ben, ils vont avoir plus de réactions dans les cinématiques, en fait. Forcément, avec le fait que t'es des intros spécifiques à chaque personnage, ils ont aussi des petites informations que tu n'as pas si tu ne vois pas ces intros.
D'accord.
Oui, alors, donc, ça paraît super compliqué comme ça, mais en gros, retenez qu'ils ont par deux. Et si vous voulez faire tous les scénarios, bah, prenez les deux personnages à chaque fois, ce sera beaucoup plus simple.
Comme les témoins de Jéhovah.
Exactement. Ou les Sith.
Par
deux, ils vont.
On a réussi à faire un parallèle entre les témoins de Jéhovah et les seigneurs Sith. Je pense qu'on peut arrêter cette émission-là.
Attends, les témoins de Jéhovah, ils viennent pas en capuchonné aussi hein?
Les inspecteurs sanitaires.
Et du coup, donc, en plus de l'histoire, en fait, les personnages ont aussi des grosses différences au niveau du gameplay. Je parlais du guerrier de la magicienne donc, qui sont pour le premier scénario, mais donc Kevin, lui, c'est un petit peu le moine artiste martial qui peut se transformer en loup-garou la nuit, ce qui a pour coup une vraie influence sur le gameplay, parce que quand il est en loup-garou, c'est globalement le personnage le plus pété. T'as Charlotte, et à l'inverse, c'est la prêtresse, donc c'est elle qui a les sorts de soins, et qui va donc être très appréciée pour les gens qui découvriront le jeu. Et après, tu as donc Okai le voleur et Riz la Valkyrie, qui eux sont de mémoire plus orientés sur du dégât et du buff et du debuff. Les personnages seront un petit peu plus compliqués à jouer. Sachant que ça, c'est un niveau très basique, vu qu'il y a un deuxième système qui rajoute là-dessus, qui est un système de classe. Et c'est pas les classes de Fire Emblem où t'arrives à un certain niveau, tu changes de classe, mais c'est ultra linéaire. C'est pour le coup, on va te proposer une espèce de choix entre choix ténèbres et choix lumière. Et ça va donner des gameplays assez différents, parce que par exemple, le guerrier en choix ténèbres, il se bat en prenant son épée à deux mains et n'a plus de bouclier.
D'accord, donc effectivement, ça change pas mal de choses, puisque tu fais beaucoup plus de dégâts, mais t'as pas de protection.
Voilà, donc ça change aussi les sorts que tu peux avoir, et en plus, arrivé encore à un certain niveau, je crois que c'est le niveau 38, quelque chose comme ça, tu as encore un nouveau changement de classe, et là, tu peux... tu as encore un choix entre deux classes, mais qui du coup dépendra de ton premier choix de classe, lumière ou ténèbre. Donc en gros, chaque personnage, peut avoir jusqu'à 6 classes différentes, et du coup, même en prenant un même personnage d'une partie à l'autre, tu peux modifier vraiment sa façon de le jouer.
Putain, c'est quand même assez ouf. Vous vous rendez compte que, enfin, là, on est en train de parler du remake, hein, mais en fait, dans le jeu d'origine sur Super NES, il y avait ça. Hein.
C'est totalement dans le jeu d'origine.
c'est assez fou quand on y réfléchit, parce que finalement, ce remake, alors en plus d'une refonte graphique assez sympathique, puisque tout est en 3D, en réalité, il reprend énormément de ces éléments d'origine. Il y a quelques options d'ergonomie en plus. C'est-à-dire que les menus sont un poil plus accessibles. C'est avec les menus de Secret of Mana, les fameux menus radio. Radial, radio.
Roux, cercle.
Roux. C'est rond, le menu.
Cylindre.
Plat. Oui, ça me dit.
Ça me rappelle le mec qui avait bricolé l'Animal Crossing sur un rouleau de PQ. Effectivement, ça confirme l'hypothèse cylindriste. Bref. Mais voilà, les Secret of Mana, c'est pas forcément ce qui est le plus accessible. Ce que j'avais compris, moi, de Trials of Mana, et le peu que j'en avais vu, c'est que c'est pareil, c'était pas toujours hyper ergonomique. Là, le remake, ça va, quoi. Le truc, il tient la route, dans les menus, tout est lisible, il y a des informations partout. C'est vrai que l'avantage d'être en HD, c'est que on peut mettre des textes partout, on n'est pas obligé de mettre Helm de R, pour dire élémentaire d'air, hein, comme vous l'aviez deviné.
Voilà. Oui, effectivement, c'était bien.
Donc il y a quand même pas mal d'options, mais ça reste globalement à peu près le même jeu, avec d'ailleurs les mêmes problèmes de mise en scène, parce que c'est vraiment la mise en scène un peu brutasse, bourrin.
C'est le remake low budget de Square, après le remake très haut budget du début du mois qui était FF7.
C'est peut-être un petit peu plus gros budget que Secret of Mana quand même comme remake, parce que
oui,
ça fait...
Non, ouais, voilà, c'est moins dégueu.
Ça fait pas jeu mobile chinois, ça fait jeu PC chinois.
Et voilà. Y a quand même eu un effort, c'est-à-dire que sur Super Nintendo c'est en vue du dessus, et le remake il est en vue d'épaule.
Oui, tout à fait, puis en plus
ce qui supprime le mode multi au passage.
Oui, malheureusement, mais enfin je sais pas si c'est une grosse perte en l'occurrence, parce que je pense que l'IA a dû bien s'améliorer.
Ouais, peut-être. Bon.
L'IA, c'est globalement, enfin, on a jusqu'à présent, c'est un peu moqué de l'IA, mais là, en tout cas sur la démo, sur le jeu final, je pense que ça doit être sensiblement pareil, parce que ce que j'ai compris, c'est que la démo, c'est genre les 2 ou 3 premières heures de jeu, quelque chose comme ça. C'est pas très très long. Mais en gros, c'est ce que j'ai compris, c'est que c'est à peu près similaire. Je voudrais d'ailleurs que la sauvegarde est
transférable
entre effectivement la démo et le jeu, ce qui est quand même très sympa comme option aussi. C'était le cas sur Dragon Quest aussi, 11 me semble-t-il.
Oui, ouais. Et Octopath.
Et Octopass.
Et Octopass, ouais. Donc c'est quand même des options sympathiques d'ergonomie. Voilà, les menus ont été rebossés, ils sont quand même... Alors effectivement, c'est touffu. Mais ça reste quand même beaucoup plus clair que la version Super NES, parce qu'il y a plus d'espace pour les afficher, quoi. C'est à peu près aussi bête que ça, mais t'as du vrai menu design, contrairement à l'original, où c'était quand même un peu hardcore.
C'était rude, hein. Je me souviens qu'il y avait 2-3 menus à l'époque, je les ai pas bités du tout. Dans le menu de stratégie, j'y suis jamais allé, je crois.
Ouais, non, mais voilà. Mais après, pour le reste, donc, petit remake en 3D, qui ne joue pas particulièrement des spécificités de la 3D. C'est-à-dire que ça reste à peu près le même level design. Alors les couloirs sont peut-être un peu plus larges, il y a des trucs pour faire bouger la caméra, il y a 2-3 trucs qui ont été rajoutés, mais finalement, ça reste extrêmement fidèle à l'original, en tout cas de tout ce que j'ai pu en voir au départ. T'as vraiment l'impression de jouer à un jeu Super NES 3D, quoi. Ouais. Faut vraiment exactement le voir comme ça.
C'est un peu ce qui fait son charme, et à mon sens aussi, ce qui est un peu le truc quand tu connais pas trop le jeu d'origine, c'est il y a un côté vraiment jeu 3D fauché japonais, et à chaque fois que je vois les gens jouer, je peux pas m'empêcher de me dire ok, on dirait un peu ça fait vraiment vraiment jeu fauché. Ça me fait un peu penser à, surtout moi qui ai joué, mais ça me fait un peu penser à Is, les Is actuels en 3D qui sont un peu nazes, sauf que Is, les combats ont la patate, et je trouve que c'est pas autant le cas dans Trials of Mana.
Alors les combats, moi je trouve ça assez supportable, en fait, dans le sens où c'est pas non plus c'est pas la folie, clairement. Enfin, c'est-à-dire, c'est un système de combat qui est quand même assez basique.
Fonctionnait bien sur Super Nintendo de mémoire, à part peut-être les sorts qui interrompaient l'action, surtout en fin de jeu où les magiciens ils bourrinent pas mal.
Ouais, là, je trouve que ça se passe plutôt bien, en fait. Le fait que ça s'adapte bien à un truc en 3D, en fait, parce que finalement, les hitbox sont assez généreuses. Enfin, il n'y a pas de... L'objectif, c'est pas le combat. Le combat reste finalement un accessoire dans le jeu. Voilà, j'attends de voir les combats de boss ou les combats un peu sérieux pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais globalement, oui, voilà, t'as vraiment l'impression de jouer, effectivement, un jeu japonais 3D cheap, mais ça fait vraiment... on prend le jeu Super Nintendo, on le met en 3D, et puis merci mon cul, quoi.
Bah, je trouve que ça a quand même un petit peu moins de charme que la 2D sur Super Nintendo. C'est pas aussi catastrophique que le remake de Secret of Mana, on va se le dire tout de suite. Mais je trouve que le charme est un peu moins présent.
Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est plus la... Alors, t'as un peu moins de charme, je suis d'accord, mais d'un côté, t'as quand même probablement un des plus beaux jeux 2D qui ait jamais été fait sur Super Nintendo.
Ah oui, non, mais totalement. Hein.
Avec, je veux dire, t'as quelques jeux qui sont très bien classés dans ce genre-là, hein, mais c'est vrai que Secret of Mana était déjà pas mal dans son genre, il est quand même très 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 joli. Trials of Mana, enfin Seiken Densetsu 3, il est largement un cran au-dessus. On est sur la toute fin de vie de la Super NES, où t'as des Terranigma qui est aussi magnifique, avec des photos digitalisées, des effets de transparence dans tous les coins. Enfin voilà, t'es quand même sur du jeu de très 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 haut niveau. Et c'est vrai qu'à côté, effectivement, ça fait 3D un peu cheap. Maintenant, ça reste quand même largement plus accessible que, ne serait-ce que parce qu'il est traduit, il coûte pas si cher que ça et tout ça. Et puis le fait d'être en 3D, ça simplifie aussi pas mal de trucs. Je trouve qu'on voit, on voit un peu mieux là où il faut aller, même si tu sens effectivement que le level design de certaines maps, tu te dis vraiment oui. Enfin, dans ma tête, moi, je les imaginais en 2D vu du dessus sans problème. Quoi. C'est vraiment, il n'y a pas de, y a pas beaucoup de subtilité. Tu vois les dévers à 2 km. Voilà, c'est pas du level design de ouf comme dans un Dark Souls.
Non, c'est très...
très basique.
C'est très basique et c'est là où aussi, moi, je trouve qu'il y a un peu le... C'est un peu un des symptômes, justement, des jeux comme ça, japonais un peu fauchés en 3D. C'est vraiment ce genre de truc où... Je sens que le niveau a été un petit peu rallongé en 3D, mais c'est juste vide et t'as juste envie de passer à la suite, tu vois, d'arriver au plat de résistance.
C'est quand même bien balisé, quoi.
C'est ça. Enfin, moi, je sais que la démo, j'étais là en train de faire une balade dans la forêt, j'étais... Ouais, j'ai connu, ce genre de level design.
C'est pas Breath of the Wild, quoi. Je veux dire, t'es pas du tout dans du monde ouvert ou tout ça. Faut vraiment l'imaginer comme un jeu d'aventure. Et puis c'est tout. Par contre, du coup, ça marche super bien pour les gamins. C'est-à-dire que, autant moi, j'ai pas eu tellement de temps d'y jouer, autant les gamins, ils ont eu le temps d'y jouer un petit peu. Et en fait, eux, ça leur va très bien, les trucs comme ça, parce que finalement, c'est assez simple. Tu vas d'un point A à un point B, tu te poses pas trop de questions. Et tu combats les ennemis, c'est pas trop compliqué comme système de jeu, donc je pense que comme tout premier RPG, même si ça reste un action RPG, il y a quand même quelques éléments de magie à gérer, de choses comme ça, il y a quand même un petit peu de complexité dans le système de jeu malgré tout, je pense que c'est le genre de truc qui serait peut-être plus adapté. Je veux dire, un gamin, c'est compliqué de le lâcher tout de suite hardcore dans un Dark Souls, quoi. Même si ça reste aussi un action RPG, mais je veux dire, du RPG tour par tour et tout ça, je trouve ça un peu trashos pour un gamin. Là, je trouve que ça s'adapte plutôt bien.
Ouais, puis tu fais une petite équipe avec Charlotte, avec la Charlotte, la magicienne et Duran, et puis c'est parti.
Ouais,
t'as un truc équilibré, et puis le gamin, il joue le guerrier, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai vu le gamin jouer. En fait, lui, ça l'amusait parce que finalement, c'est pas trop compliqué, il arrive à suivre. De temps en temps, il regarde la carte pour savoir où faut aller, mais c'est pas non plus inaccessible. Je trouve que ça passe bien. Faut quand même aussi se rappeler que c'est un jeu budget, puisqu'il est vendu 40€ de mémoire.
Ouais.
Enfin, c'est pas tout à fait du budget, mais c'est pas loin. Bah, pas vendu très cher.
C'est pas non plus un remake.
C'est pas FF7 Remake, hein, si c'est ça la question.
FF7 Remake, c'est un caprice de Studio Rich. Pour citer Game Cult, mais je trouve que c'est la meilleure définition possible pour ce jeu.
Attends, un caprice de Studio Rich, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, c'est vrai que c'était peut-être un des remakes les moins nécessaires de l'année, hein, faut être très clair.
Alors, je suis en train d'y jouer, peut-être qu'on en reparlera. J'en reparlerai peut-être vite fait quand j'y aurai joué, mais. C'est pas le sujet. Et il a 50 balles sur l'eShop.
Trials,
okay. Là, je confirme, il a 50 balles. Donc, c'est pas tout à fait le jeu budget, mais il est pas à 70 balles, quoi. Il sort pas à 70, il sort à 50. Donc, il sort à un tarif que je trouve raisonnable, surtout qu'il sera très probablement à 30 ou 40 balles dans quelques semaines.
Surtout qu'il garde ses spécificités d'époque qui sont ce qu'on a parlé, hein, le triple scénario, les personnages très, 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 très typés, et puis la customisation avec le système de classe qui arrive pour renouveler, qui renouvelle pour le coup, donne un peu plus de renouveau aussi à l'expérience, parce que c'est vrai qu'au bout de... Je pense qu'il doit faire 15-20 heures le jeu.
Oui, ça peut être
demandé. Ouais. 15-20 heures pour un scénario ou pour les trois scénarios? Pour un scénario, oui, donc c'est... Oui.
Non, mais franchement, t'en as pour ton argent, hein. Là-dessus, y a pas de... Je trouve qu'il n'y a pas d'arnaque, je trouve qu'il aurait pu sortir à 40 balles, mais honnêtement, à 50, je trouve que c'est pas trop la carotte.
Ouais, t'as quand même des spécificités d'époque qui pour moi aussi, font ce qui donne son intérêt au jeu, et le fait que... Moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié les jouer, c'est que vraiment, c'est vraiment ces spécificités qu'on ne retrouve pas tant que ça dans les jeux actuels, finalement, et que je trouvais plutôt cool.
Oui, c'est-à-dire finalement un système de jeu très dépouillé, simple, efficace, qui marche. C'est... Le seul truc, moi, qui m'a un petit peu choqué, c'est les questions de mise en scène. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une cinématique qui démarre, tu sens que c'est un peu brut de fonderie quand même. C'est-à-dire que le... Ah ah, il est mort, il faut aller poursuivre le méchant. Genre, oui, bah, très bien, on va faire ça.
C'est du scénario d'époque. Hein.
Ah non, mais c'est ça, c'est l'époque où le scénario dans un jeu vidéo, c'est comme le scénario dans un porno. Hein. Tu t'attends à ce qu'il y ait rien, tu t'attends pas à ce qu'il soit bon. remercie John Carmack au passage.
Ouais,
c'est magnifique citation.
Et pourtant, t'as eu quand même FF6 et Chrono Trigger en termes de bon scénario avant, quoi.
Et imaginez si ça avait pas été un porno FF6.
Avec des gros mechas.
Voilà, un porno avec des gros mechas, c'est ça qu'on veut.
Je rappelle que le premier boss de FF6 est un escargot baveux.
Règle 34.
Chut, non pas ça, s'il vous plaît. Bref, on va se quitter là-dessus. Donc, alors pour les fans, donc Collection of Mana, qui est à l'origine, est sorti juste au Japon et qui a fini par sortir en Europe.
Avec la traduction française de ce Trials.
Second 3.
Ouais. Anglaise ou française ?
Française officielle.
Française. Oh, je me rappelais anglaise, mais je me rappelais pas française. Oh, bah alors ça c'est bien ça. Donc Collection of Mana qui est sorti officiellement, donc il y a Seiken Densetsu alias Final Fantasy Gaiden alias. Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden alias Final Fantasy Adventures alias Mystic Quest, et je crois que sur la Collection of Mana c'est aussi la version française.
Ouais, c'est Mystic Quest, et je suis en train de me demander justement si en changeant la langue de la console ça changerait l'écran titre.
Je pense que ça doit changer le truc, ça doit changer la ROM, hein, à mon avis. Enfin, la ROM elle doit faire 256 kilooctets, s'ils ont pas mis les 3, c'est que c'est vraiment des connards. Hein.
Mais bon, voilà,
après, il y a peut-être Mystic le jeu Quest. En allemand, il y a peut-être le jeu en... Je sais pas en quoi il a été traduit en Europe, donc probablement anglais-allemand-français, c'est en général ça.
On n'en a pas parlé, je fais l'anecdote rapidement aussi là-dessus. Vous saviez qu'il existe un jeu qui s'appelle Mystic Quest aux États-Unis, qui n'est pas Final Fantasy Adventure.
Et qui est sorti sur Super NES et qui est ressorti au Japon sous le nom Final Fantasy USA.
Voilà. Je pense qu'il fallait en parler parce qu'on n'était pas allé assez loin dans cette
histoire. Parce que niquez vos mamans.
De titres à rallonge et débiles.
Voilà, qui est le jeu en fait que tu peux gagner en... Alors en fait tu peux faire un... Alors pour gagner ce jeu, Mystic Quest, en fait, c'est très très simple. Tu prends une manette de Super Nintendo, tu prends un Raspberry Pi, tu prends un petit robot qui appuie sur le bouton A. Voilà, je suis sérieux, hein. Tous les mecs qu'on te met avec toi sont overpowered, mais genre à mort, et ils one-shot tous les boss. C'est assez génial. Bref, donc c'est de la merde.
Voilà.
Mystic Quest, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment très compliqué.
Non, Mystic Quest US.
Mystic Quest, oui, non, mais non, Mystic Quest sur Super NES, hein, parce qu'il est aussi sorti en Europe, Mystic Quest. Sous le nom Mystic Quest Adventures.
Oh là là.
Mais quel enfer.
This is not a joke. Attends, je vérifie quand même, parce que je suis pas sûr de mon truc.
Ça me parle, justement. Je croyais, je me disais, tiens, je vais me le refaire.
Je sais qu'on a déjà parlé de ça.
La
je
pub dis, télé suis... pour. Voilà. Donc, oh putain. Attention, accrochez-vous à vos... Oh, beau bordel de merde. Accrochez-vous à vos chaussettes, hein, attention. Donc, aux États-Unis, il sort donc sous le titre Final Fantasy Mystic Quest. Mystic Quest, hein, je veux dire. Au Japon, il sort sous le nom Mystic Quest Final Fantasy USA. Et en Europe... Attends. Mystic Quest Legend, pardon.
Oh, voilà. Oh putain. On est bien.
On est très très bien. Voilà, on est très 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 bien. Je pense que là, j'ai envie de tuer des bébés phoques.
On l'a perdu, ça y est.
Voilà, Final Fantasy USA, Mystic Quest. Voilà, niquez vos mères. Putain, c'est beaucoup trop compliqué. À tes souhaits, ma chérie. C'est beaucoup trop compliqué. Donc, dans les titres à la con, donc, voilà, Collection of Mana et Seiken Densetsu 1, 2, 3, avec du coup l'original sur Super Nintendo. Mais qu'on peut jouer en version française avec une vraie traduction officielle, et ça c'est quand même hyper cool.
Oui.
Et surtout on peut profiter de ces visuels absolument merveilleux sur cette version là sans être obligé de débourser. Alors il coûte pas si cher que ça en version japonaise, mais il faut quand même compter dans les 50 balles, je pense.
Ouais, donc
c'est une version japonaise.
Plus cher que la collection complète, quoi.
Tout à fait, et en plus c'est une version japonaise, c'est-à-dire que c'est pas traduit et tout ça, donc faut quand même te faire chier. Enfin, faut quand même le faire sur un émulateur à côté, donc ça a quand même assez peu d'intérêt. Donc le remake Trials of Mana qui est sorti la semaine dernière. Alors faut aimer les trucs un peu à l'ancienne, mais moi honnêtement je pense que c'est plutôt une bonne pioche, surtout à un prix raisonnable, s'il baisse un peu de prix en plus.
Il y aura sûrement des promos dans pas longtemps.
Exactement.
Ça peut valoir le coup de guetter une promo Fnac ou une promo eShop.
Exactement, une promo Fnac, une promo eShop, ou d'occasion, ça doit pouvoir se choper aussi dans quelques semaines, je pense.
Un petit tour sur le bon coin, sur le profil de Mortal, d'ici quelques jours quand il en aura marre.
Exactement. D'autant plus que le bon coin est donc parfaitement autorisé, vous n'avez plus besoin d'attestation. Bref. Voilà, on va se quitter là-dessus. On va vous souhaiter une bonne fin de confinement, puisque visiblement tout le monde va sortir le 11 mai et on pourra danser dans les rues tous ensemble, main dans la main, sans masque.
Ah, allez, con, s'il vous plaît.
Alors, main dans la main, en respectant les distances de sécurité et les gestes barrières.
Tout à fait. Bref, en tout cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Je ne sais pas quel sera le sujet de l'émission, mais pourquoi pas une petite rétro sur Baton Kaitos, tiens. Je lance le sujet, on verra bien.
Si t'es motivé pour...
Moi, je suis motivé.
Pour y jouer un petit peu, moi, ça va, je connais bien, donc...
Je suis motivé surtout que... Alors, j'ai fini Resident Evil 3 sur Dolphin, mais avec le disque que j'avais rippé moi-même de ma GameCube. J'étais quand même très fier de moi, parce que malheureusement, ma GameCube est emballée. En fait, ma GameCube est emballée accessible, les cartes mémoire, je sais pas où je les ai foutues, en fait, c'était ça mon problème. Donc j'ai préféré le faire sur émulateur, mais je l'ai quand même fait dans les vraies conditions du direct, hein, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé de save state, j'y étais comme ça. Mais moi je suis assez motivé pour un Baton Kaitos. Surtout ouais. Alors, en plus si Baton Kaitos Origin nous est mis à disposition par Monsieur Zergy, gentiment qu'il a patché lui-même avec ses petits doigts musclés, ses petits bras potelés, moi honnêtement ça me va très bien.
Bah écoute, je regarderai la traduction FR par curiosité. Je sais pas si mon ordi fera tourner Dolphin, donc...
Ça tourne avec pas grand chose.
Et je n'ai pas de quoi faire tourner mon CD de Baton Kaitos Origin qui est très fan chez moi.
En tout cas, voilà. Je lance le sujet. Je sais pas si ce sera ça, mais je le lance.
Alors, en attendant. En plus, le timing sera pas mal puisque en mai sort le remake de Xenoblade qui est aussi un jeu Monolith.
Et ben voilà. Et ben écoutez, c'est réglé. Vous voyez comment ça marche les conducteurs de Jobar, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement exactement pas comme ça que ça marche. Surtout. Bref. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines, on vous fait des gros bisous, on vous souhaite de pas péter un plomb pour le peu qui vous reste, on vous souhaite de rester le plus possible en bonne santé, faites bien attention à vous, faites bien attention à vos proches, essayez de rester chez vous le plus possible malgré tout, faites bien attention, n'allez que dans les bars où le nom commence par Dojo, et ça se passera très très bien. Voilà.
C'est ça.
À dans 2 semaines, bisous, ciao tout le monde.
Bye bye.
Bisous, bisous.